où un homme il peut enraciner chez son enfant la Yirat Shamayim. Velo be'et acher. Seulement ce soir-là, un homme, il a une capacité, Hachem, il permet à l'homme d'enraciner dans le cœur de son enfant la Yirat Shamayim. Velo be'et acher, dit le Talmud de Rabbi Devologine. On prend un petit peu la mitzvah extraordinaire de Vegata et Vincha. C'est aussi une mitzvah de Hachem Tam et Banecha, d'enseigner la Torah à son fils. Dit le Gaon de Vilna, toute la Torah, on va la retrouver dans la Aseret Adiberot. On va retrouver aussi le Kiryat Shema dans la Aseret Adiberot. Par exemple, le premier pasouk du Kiryat Shema, Shema Yisrael, Hashem Elokeinu Hashem Echad, ça correspond à la première, premier dibour. Shema Yisrael, Hashem Elokeinu Hashem Echad, ça correspond à Anochi, Hashem Elokecha, tu es Hashem ton Dieu. Dis le gars de Milna, quel pasouk, quel dibour, à quel dibour correspond Veshinantam Levanecha, tu enseigneras la Torah à tes enfants, à quel commandement correspond Veshinantam Levanecha qui est marqué dans Kiryat Shema? Veshinantam Levanecha, c'est quel commandement? Tu m'as demandé à moi, tu as dit Kibudavaim, dis le gars de Milna, non. Veshinantam Levanecha, ça correspond à Lotir Tsar, tu ne tueras pas. Enseigne la Torah à ton fils. Quel dibour Lotir Tsar, ne le tue pas. On va le soir de Pessah donner vie à nos enfants en leur enseignant, en leur insufflant, en enracinant dans leur cœur la mitzvah de Sipur Yetziat Mitzrayim. On va démarrer par d'abord le Chametz, Bdikat Chametz. On va dire quelque chose sur Bdikat Chametz avant de rentrer dans le vif du sujet. Alors Bdikat Chametz, les Sfarim HaKdoshim, ils disent qu'il y a certains qui avaient l'habitude à l'époque, avec le Chametz, de brûler aussi la bougie avec laquelle on recherchait le Chametz. Ma'inyan bezé. Brûler le Chametz, je comprends, mais pourquoi brûler aussi la bougie avec? Alors pour comprendre ce minagla, on va amener un enseignement que j'ai entendu d'une de mes chavrutot, Rav Shmuel Ben David, et je l'ai trouvé. Il m'avait pas donné la source, et on l'a cherché, et j'ai trouvé. L'année dernière, Rav Zalman Sorotsky me ramène quelque chose d'extraordinaire. La chose suivante. Il ramène Parashat Re'eh. En Parashat Re'eh, c'est marqué Kadosh Baruch Hu, il a donné certains animaux, il a permis, d'autres, il a interdit. Parmi les animaux interdits, il y a un oiseau qui s'appelle le Ra'a. Le Ra'a, c'est un oiseau, dit l'Agmara dans le premier Dapsan, Ergimel, une bête, qui voit très très loin. Le Ra'a. Il a Shon Roé, il voit très loin le Ra'a. Dit l'Agmara, Tana, en enseignement, Omed, Bebavel, il se tient à Babel, Veroé, Nevela, Be'eretz Israël. Il arrive à voir une Nevela en Eretz Israël. Il a une vision très très perçante, très très lointaine. Ce qui est étonnant, demande Rav Zalman Zonskin, pourquoi est-ce que le Ra'a, il n'est pas cachère? On sait, le Ramban, c'est Charim, développe longuement cette idée-là, que tous les aliments qu'on va ingérer, ils vont faire partie de notre corps après. Donc Hachem il a permis uniquement les aliments qui ont une nature paisible. Les oiseaux par exemple qui dévorent leur proie, les animaux qui sont attachés vraiment à la matière, les poissons qui sont tout au fond de la mer, ils sont interdits. Seulement ceux qui sont plus élevés. Les animaux qui sont paisibles sont permis, mais les animaux qui sont difficiles, sont cruels, ceux-là sont interdits. Le rat qui a apparemment une qualité extraordinaire, il a une vision perçante. Pourquoi ce rat-là, il est interdit? Dire à Zalman Soroskin, pourquoi il est interdit ce rat? C'est vrai qu'il voit très très loin. Mais qu'est-ce qu'il voit? La Gemara elle dit, il se tient à Babel et il voit en Eretz Israël une Nevela, un cadavre d'animal mort. C'est la seule chose qu'il trouve à voir en Eretz Israël, avec tout ce qu'il y a en Eretz Israël. La Torah, Talmid Chachamim, Bet Hamikdash, la seule chose qu'il voit en Eretz Israël, c'est quoi le rat? C'est une Nevela. Il voit le point noir qu'il y a là-bas en Eretz Israël, il voit que les mauvaises choses. C'est ça l'idée en fait, de brûler la bougie avec laquelle on a cherché le Chametz. Chachamim vient nous dire ici un petit peu, brûle le Chametz, brûle aussi la bougie. Cette bougie-là qui a cherché les mauvaises choses, qui a cherché les défauts, tu la prends cette bougie-là et tu vas la brûler aussi. Comme pour nous dire qu'on n'aime pas les hommes, on n'aime pas les gens qui cherchent le défaut chez les autres. Cette bougie-là, on va la prendre et on va aussi la brûler. Parce que pourquoi ? Cette mida-là de voir les mauvais traits chez les autres, les mauvais, le mauvais caractère, le mauvais point qu'il y a chez les autres, c'est déjà qu'il y aura. Vous pouvez me demander, mais là c'est mon Chametz que je brûle, j'ai cherché mon Yetzer Hara, j'ai cherché les mauvaises choses qu'il y a en moi. C'est vrai. C'est juste, mais il y a une limite, pas confondre Anava et confiance en soi. C'est vrai qu'on doit déraciner nos mauvaises midot, mais on ne doit pas se concentrer seulement sur nos mauvaises midot. Il faut voir les points forts qu'on a en nous pour se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. C'est le but de la Haggadah justement. C'est de, on est Bnei Melachim, on va prendre nos points forts. C'est une tshuva qui va être une tshuva Me'ahava, pas une tshuva Me'ira, comme en Tishri. C'est encore plus haut, dit le Rachas dans Sefer Nahar Shalom. C'est une tshuva qui est Me'ahava. C'est le jour de tshuva aussi, les Yémenissan. Donc, ça c'est un premier point sur Bdikat Hametz. Deuxième point, le Ben Yishraï, il dit que pendant la Bdika, c'est bien de prendre une assiette dans laquelle on va mettre le pain et mettre aussi là-bas du sel dans cette assiette. Pourquoi du sel ? Il a dit, Ben Yishraï, ça va nous rappeler en fait le sel, que de la même manière qu'Akash Boukhou a fait une alliance avec le sel qu'il ne pourrira jamais, de la même manière qu'Akash Boukhou a fait une alliance avec le clan d'Israël, que jamais le clan d'Israël sera détruit. C'est pour ça qu'on met le sel dans l'assiette. Il y a en Amazonie, Einstein rapporte ça, en Amazonie, il y a une grenouille qui s'appelle grenouille taureau. Sfardea Shor. Une grenouille très très grosse, immense. C'est un monstre. Une très très grosse grenouille. Et on dit que cette grenouille-là, chaque animal qui passe devant elle, elle ouvre sa bouche, elle étend sa langue, elle avale l'animal. Et l'animal, il meurt. Il y a juste un petit animal, tout petit, ouais. C'est une sorte de caméléon. Que lorsque la grenouille elle ouvre sa bouche, elle tire la langue et elle ramène l'animal vers elle, cette grenouille-là, elle meurt. Quelques heures après, elle meurt. Parce que sur son dos, ce lézard-là, il a du poison. Il a un poison qui fait que la grenouille ne peut pas supporter. Et donc ce lézard-là, il va tuer cette immense grenouille-là. Mais ce qui est étonnant, c'est que quelques heures après, cette grosse grenouille-là qui meurt, elle ouvre la bouche et le lézard, il sort comme ça, vivant. Comme si de rien n'était. Et dire à Blenstein, ça avec l'Israël. L'égoïme essaie de nous tuer, génération après génération. Ils essaient de nous avaler. Ils nous avalent. Ils pensent qu'ils vont arriver au bout. Mais au bout du compte, qu'est-ce qui se passe? Eux, ils meurent. Et nous, on reste vivants. Ve'ish Amda. On reste vivants. On est indestructible, dit le Ben Yishraï. Le clan d'Israël, il est totalement indestructible. Le rabbi de Tzanz, qui a perdu sa femme et ses 11 enfants dans la Shoah. Un jour, il y a un nazi qui le frappait, il le massacrait de coups. Et lui a dit la chose suivante. Eneni Yodea. Il a dit. Il lui a dit, Dalecha, sache, Enini Yodea, Imani Atsimi et Sher Bachaim. Moi, je ne sais pas si je vais rester en vie. Aval, et Am Israël, Lot Atslichu Leashmid Leolam. Mais que l'Israël, jamais vous ne pourrez le détruire. On est indestructible, nous dit le Ben Yishraï. Ça, on doit se le rappeler le soir de Pessah, où les Égyptiens, ils essaient de nous détruire. Chaque génération, on est indestructible, Baruch HaShem. Aznam Shir, on a dit deux pierres sur les 4 Hametz. Alors, on arrive le soir de Pessah, et Rabbi Faladji, il écrit dans la Gada l'Echaim Nerosh, là-bas, au nom du Chemdat Ayamim, que c'est très bon que le Baal Abayit, ce soit lui qui dresse la table le soir de Pessah. Et c'est un très très grand tikkun, il dit, si Chazé Shalom n'a pas respecté pendant toute l'année les lois concernant Ilchot Seouda, alors c'est un très 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 grand tikkun, soit dans cette vie, soit dans un Gikoul Acher, il dit, c'est très très bon, ouais, qui prépare lui-même la table du Seder. C'est un très très grand tikkun. Alors, on commence avec la mitzvah de Haseba. Alors, juste par souci de fluidité, on va, s'il y a des questions, on les posera à la fin. Comme le cours est enregistré, pas que ça gêne, on posera des questions à la fin si vous avez des chèvres. La mitzvah de Haseba, dire après, il fallait dire toujours, il écrit au nom du Ochot Yosher. Il y a Fahim aussi, il ramène ça à Tafahim Bet, là-bas c'est Ifyot Bet. Il dit qu'il faut se comporter en roi ce soir-là. Et il dit que de se comporter en roi, et de s'accouder ce soir-là, ça va réparer tous les comportements de gava qu'un homme il a eu toute l'année, alors qu'on ne lui a pas ordonné d'être gavtan. Ce soir-là, ouais, ça va réparer tous les comportements de gava. On a été gavtan sans qu'Hachem nous l'ordonne. Ce soir, Hachem nous dit, sois grand, comporte-toi en roi. Et tu répareras par là tous les comportements de gava que tu as eu pendant l'année. On arrive avec les arbakosot. Arbakosot, les explications les plus simples. Bien sûr, les 4 verres de vin, ils représentent le sang des petits-enfants juifs égorgés en Égypte, 150 le matin, 150 le soir, dit le Taz. En souvenir de ça, on va boire 4 verres de vin. D'autres, Magan Avraham, en souvenir de la plaie du sang. Le Kafarim lui dit, ces 4 verres de vin rouges, ils font référence à l'extermination future par Hachem des ennemis d'Israël. Le Bnei Sacha, il ramène, on va rentrer un petit peu plus, il ramène au nom du Rida. Le Chachamim, ils ont dit, prends 4 verres de vin, correspondant aux 4 mérites par lesquels les Bnei Israël ils ont pu être sauvés. Premier verre de vin, ils n'ont pas changé leur nom. Et on va faire sur ce vin-là, ouais, Mekadesh Israël, on a gardé notre doucha, on n'a pas changé nos noms. Deuxième verre de vin, ils n'ont pas changé leur langue, correspondant au fait qu'ils n'ont pas changé leur langue. On a gardé notre Lachana Kodesh. Et dessus, qu'est-ce qu'on va faire? On va lire l'Agada qu'on va réciter en Lachana Kodesh. Troisième vers de vin, ils ne se sont pas débauchés. Il n'y a pas eu de débauche entre l'Israël. Ils sont restés maillards avec des juifs. Qu'est-ce qu'on va lire avec le troisième vers de vin là? Le Birkat Hamazon, dans lequel on va dire Ve'al chukecha sheodatanu. C'est quoi chukecha? C'est les chuké de Tarat Amishpacha, de pureté familiale. Quatrième vers de vin, il n'y avait pas parmi eux de la Shanara. Il n'y avait pas de la Shanara. Et c'est ça le quatrième vers de vin. On va chanter le Halel. Dans le Halel, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire Lama yomru agoim ayena Elohim. Pourquoi est-ce que les goïms vont dire il est où votre Dieu? Vous servez Hachem, vous ne servez pas Kadosh Baruch Hu. Ils font du Lachanara sur nous. En contrepartie, en correspondance au Lachanara que nous on n'a pas fait, on va lire ce Hallel là. Le Maté Moshe, il demande pourquoi est-ce qu'on fait les 4 verres de vin sur du vin? Pourquoi pas sur un tequila, 4 verres de coca, 4 verres de lait, 4 verres d'eau? Pourquoi 4 verres de vin d'Afka? Il dit tout comme la vigne, elle ne supporte pas la greffe. On ne peut pas greffer une vigne. On peut greffer d'autres. Fruits, la vigne, elle ne supporte aucune greffe. Tout d'abord, correspondant au clan Israël. Le clan Israël aussi ne peut pas supporter un contact intime avec les autres nations. Mais Akiva Eger, pour une bonne chéla. Regardez Akiva Eger, c'est marqué. C'est marqué dans Shira Shirim. Maïm Rabim lo yochlu lechabot et ahava. De l'eau nombreuse ne pourra pas éteindre l'amour. C'est quoi l'eau nombreuse? Maïm Rabim. Maïm, ça représente les goïm. Maïm Rabim. Tous les goïm, de nombreux goïm, ne pourront jamais éteindre Ahava, l'amour. L'amour qu'Hachem a pour nous. Dire à Moshe Shapira que Maïm, c'est un mot qui ne se singularise pas. Tu ne pourras jamais singulariser le mot Maïm. C'est toujours au pluriel. C'est les goïm, ça. Il n'y a aucune ardoute entre eux. Un déteste l'autre, chacun est jaloux de l'autre. Et nous, c'est quoi? C'est Ahava. Maïm Rabim, le yochlu, le chabad ta'ava. L'amour, l'eau nombreuse ne pourra pas éteindre l'ahava. L'ahava, c'est quoi? C'est le clan Israël. C'est l'amour qu'on a pour Hachem Yitbarach. C'est quoi Ahava? Ahava, c'est 13. C'est Echad. C'est l'unité. Donc les goïms ne pourront jamais nous éteindre. Dire, mais Kévegar, je ne comprends pas. Il dit, mais c'est pas vrai. L'eau, elle éteint l'ahava. Elle éteint l'ahava, c'est le Hesh, l'amour de feu qui est entre nous, Hachem. L'eau, elle éteint le feu. L'eau, elle éteint le feu. Donc comment est-ce que le Shlomo HaMelech il peut dire, Maïm Rabim, le yochlu, le chabad ta'ava? L'eau ne peut pas éteindre le feu. Il dit, avec Weger, il y a un seul cas où l'eau ne peut pas éteindre le feu. Et c'est ce cas-là, si on le respecte, alors jamais notre amour, jamais l'amour qu'Hachem a pour nous, ne pourra s'éteindre. C'est quand? C'est lorsque le feu, il est séparé de l'eau. Lorsque l'eau, elle est séparée du feu. Par exemple, si vous prenez plein d'eau, vous jetez sur le feu, ça s'éteint. Mais si maintenant vous avez une marmite énorme, avec 1 milliard de litres, et en dessous vous avez du feu, jamais l'eau ne pourra éteindre le feu. Pourquoi? Parce qu'il y a une séparation entre l'eau et le feu. Et ça, c'est de cette manière-là que le clan d'Israël, il peut se protéger, il peut être attaché à Kadosh Baruch Hu. Lorsqu'il y a une séparation entre nous et les goïm. Rabbi Shlomo Diskin, il dit bien à Botaï. C'est dur, il faut le savoir. Il dit, il faut savoir que seuls les juifs fidèles pourront voir Mashiach. Uniquement eux. Il n'y a pas d'autres. C'est quoi les juifs fidèles? Shabbat, Kashrut, Torah, il dit pas du tout. Un juif fidèle, c'est celui qui est séparé de la culture des goïm, de leurs livres, de leur musique, de leurs vêtements, totalement détaché des goïm. Maïm Rabim lo yochlu lechabot et ahava, s'il y a une séparation entre nous et les goïm, si on garde notre propre identité. D'autres explications sur Arba Kossot. Pourquoi? Alors, on fait Arba Kossot, on sait très bien. Keneged, Veotseti, je t'ai sorti, Hachem dit, Veitzalti, je t'ai sauvé, Vegalti, je t'ai libéré, Velakarti, je t'ai pris en tant que peuple. Il dit, pourquoi est-ce que les sages, ils ont institué 4 vers de vin pour rappeler les 4 langages de délivrance? Pour Veotseti, Veitzalti, Vegalti, Velakarti, t'aurais pu prendre, ouais, 4 matzot, 4 carpas, 4 abricots, 4 chocolats à miel, je sais pas, ce que vous voulez, ouais, 1, 2, 3, 4. Pourquoi 4 vers de vin? Pourquoi comme ça? 4 vers de vin d'Afka, Lama. Alors, dire à Shlomo Zalman Auerbach que les 4 langages de délivrance, ce n'est pas seulement des langages qui sont différents, mais chaque langage y fait appel à un niveau de plus en plus élevé de délivrance. Et ça va augmenter la simra. Au début, c'était Veotseti, Veitzalti, Vegalti, Velakarti en tant que peuple. Tout d'abord, si on avait pris 4 chocolats, ouais, 4 carpas, alors le premier, il a du goût, mais le deuxième, on le kiffe moins. que le premier. Le troisième, un peu moins que le deuxième. Le quatrième, encore moins que le troisième. Par contre, dans le vin, c'est différent. Le deuxième verre de vin, il nous élève encore plus. Le troisième, encore plus que le deuxième. Le quatrième, encore plus que le troisième. C'est pour ça qu'on a pris d'Arca 4 verres de vin. Keneged, c'est 4 lachonot de délivrance qui font appel chacun à un niveau de plus en plus élevé, dira Shlomo Zalman Yerambam. Alors, Raphaël Balaji demande dans sa Gada Chagneroche, il dit, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas de bracha sur la mitzvah de boire l'arba kosot? Sur la matzah, on fait une bracha, l'achidat matzah. Sur le maror, on fait une bracha, à l'achidat maror. Sur les 4 verres de vin, on ne fait pas de bracha. Lama. Dire Raphaël Balaji, étant donné que les 4 kosot, ils sont aussi en rapport avec les 4 coupes de destruction qu'Hachem va faire boire au Goïm, comme c'est marqué dans Yermiaou, alors on ne fait pas de bracha et de louange à Kadosh Baruch Hu sur des malheurs. Même que ces malheurs-là, ils sont survenus au Goïm, on ne va pas faire de bracha dessus. Comme on a vu dans le Midrash, que les Malachim, ils voulaient faire des louanges à Hachem lors de Kiryat Yam Souf. Hachem leur a dit quoi? La création de mes mains, elle se noie, vous voulez faire de louanges. Tout d'abord, on ne fait pas de bracha sur Arba Kosot, puisque selon Mishita, ça représente les 4 coupes de destruction que les Goïm, ils vont boire à la fin des temps. Ah, si c'est comme ça, il reste une Sheila, c'est pourquoi est-ce qu'on fait la bracha sur le Maror? Le Maror, ça rappelle aussi les malheurs. Ça rappelle aussi la mort des millions de juifs. Il dit non, c'est différent. Parce que là-bas, c'était pour nous purifier de nos fautes. C'était pour nous affiner, pour nous rendre aptes à recevoir la Torah. Agave, certains, ils disent que notre exil, il est aussi long. Pourquoi? Parce que, mais plus long que l'exil d'Égypte. Parce que c'est vrai qu'on a reçu la Torah, Beyetziat Mitzrayim, et donc on a souffert pour pouvoir être, pour s'affiner, recevoir cette Torah-là. Notre exil, il est beaucoup plus long. Pourquoi? Parce que le niveau, on va recevoir une autre Torah encore plus élevée. Bizman HaMashiach, étant donné que cette Torah elle est plus élevée, donc c'est pour ça que nos souffrances elles sont plus fortes encore, ouais, que ce qui s'est passé en Égypte. Et ça dure aussi longtemps, pogrom, Shoah, etc. Le Rabbi de Tzanz, lorsqu'il était dans la Shoah, il a dit aux ceux qui étaient autour de lui, sachez une chose. Ça, je l'ai entendu rapporter. Et je l'ai entendu rapporter, je ne sais plus de qui, mais c'est écrit dans le livre du père de Rav Kaufman. Il rapporte ça, qu'il a entendu lui-même de Rabbi de Tzanz. Il dit comme ça, sachez que ce qu'on vit aujourd'hui à Auschwitz, c'est beaucoup, 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 beaucoup plus difficile que ce qu'ils ont vécu de Mitzrayim. Beaucoup plus difficile encore. Alors ce que ça veut dire, Mitzrayim? Des bébés dans les briques, ouais. 150 le matin, 150 le soir. Et il nous dit, c'est beaucoup plus dur que ça encore. Stam, donc c'est pour ça que c'est aussi dur. Pourquoi? Parce qu'on recevra une Torah encore plus élevée. Le Orzaroua, il écrit ici, Man Resh Nunvav, là-bas, que le tour, il était pointilleux de prendre du vin rouge pour les Arba Kosot. Ouais, pas comme le Kiddush, c'est pas forcément obligé. En souvenir du sang des bébés égorgés par Paro, ils font du sang rouge. Il écrit aussi que c'est en souvenir du Dame Pessah et du Dame Mila. Et enfin, pour terminer sur Arba Kosot, 4 coupes. Pourquoi? Dit le Gaon de Vilna, pour les 4 mondes. Il y a 4 mondes en réalité. 4 mondes. Il y a Olam Hazeh, Olam Haba, Triat HaMetim et Yemot HaMashiach. Olam Hazeh, Olam Haba, Triat HaMetim et Yemot HaMashiach. Yemot HaMashiach, c'est avant Triat HaMetim, c'est après. Olam Hazeh, c'est notre monde. Olam Haba, c'est Olam Haba. Triat HaMetim, c'est 40 ans après la venue de Mashiach. Il y aura un Triat HaMetim qui sera directement quand Mashiach va venir, pour les Tzadikim et pour les Rechaim, les plus grands Rechaim, qui voient la vengeance d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, la première coupe de vin, c'est le Kiddush, ça représente Olam Hazeh. On est Mekadesh, la matière, dans ce Olam Hazeh. La deuxième coupe de vin, sur laquelle on va raconter la Haggadah, c'est Yemot HaMashiach, où il y aura des miracles aussi grands qu'à l'Etsiat, plus grands qu'à l'Etsiat Mitzrayim. La troisième coupe de vin, ça représente Triat HaMetim, Birkat Amazon, dessus. Pourquoi c'est que Triat HaMetim, selon Birkat Amazon? Parce que quand quelqu'un il mange, il revient en quelque sorte, dit le Gaon de Vilna. Il n'a plus de force, il mange et il reprend des forces. C'est Triat HaMetim. La quatrième coupe de vin, on va dire le Hallel dessus, c'est Yemot HaMashiach. En Akash Bourou, il sera totalement dévoilé et les Goïm vont reconnaître sa puissance. On attaque avec le Karpas. Le Karpas, c'est écrit Karpas. Karpas, c'est deux mots. Kar, c'est du mot Mekar. C'est les dernières syllabes du mot Mekar. Une vente. Pas, Passim. Des rayures. Vendu pour des rayures. Karpas. Qui a été vendu pour des rayures? Quand vous voyez le Karpas, il y a des fentes dessus. C'est la tunique de Yosef Hatzadik. Ses frères, ils ont pris sa tunique, ils l'ont trempée dans le sang, ils l'ont donnée à leur père. Voilà papa, ton père, il a été déchiqueté par une bête sauvage. Et suite à cette vente-là, Yosef suivi plus tard de toute sa famille, et ils descendront tous en Égypte. Donc Arpas vendu pour des rayures, en souvenir de cette unique riée-là, qui était trempée dans le sang, et qui a déclenché notre exil, on va tremper ce céleri-là. Donc on va le tremper, alors, dans le salé et dans le vinaigre pour rappeler les larmes des Bnei Israël. C'est intéressant parce que le Mishnah Brura, là-bas, Krot Pessar, Tafaïn, Imel, c'est Vav, c'est Katanoun Dalet, dit le Mishnah Brura, que certains y trempent dans le vin. Marrant ça. Le vin, c'est rouge. Ça peut être référence peut-être à la tunique de Yosef qui était trempée dans le sang. Le Rida dit que le Karpas vient nous rappeler la plaie de la grêle et des sauterelles qui ont détruit tous les champs de légumes, de céleri des Égyptiens. Souvenir, la plaie de la grêle. Le Rida, toujours, il dit que les Bnei Israël égyptiens, les Égyptiens après les Makot, et les Bnei Israël, lorsqu'ils étaient frappés par les Égyptiens, ils devaient panser leurs plaies. Ils n'avaient pas de pansement. Les pansements de l'époque du Rida, c'était le Karpas. Donc ils se pansaient les plaies, en fait, avec le Karpas. En souvenir de ça, on va manger le Karpas ce soir, là. D'autres disent, la Gada du Hachimatsliar, dit qu'autrefois, les guerriers portaient du Karpas sur la tête. Et les vainqueurs, comme ça, ils rentraient de la guerre avec du Karpas sur la tête. On connaît les couronnes de laurier. Ils avaient les Romains, mais il y avait aussi les couronnes de Karpas, comme ça dit le Rabbeinu Manoar, à Khotrametsu Matsar, apporté par le Mishmatsliar. D'autres, ils disent que ceux qui portaient du Karpas lorsqu'ils allaient à la guerre, ils étaient sûrs de revenir vainqueurs. Il faut dire ça à ceux qui vont se battre en guerre contre Daesh. Prenez du Karpas, vous allez gagner, ça va être bon. Voilà. Et donc, on continue. Le Yachatz. On arrive, on coupe la Matsah en deux. Alors, ça, c'est, dit le Rida, c'est pour montrer à nos enfants qu'avec la même facilité que chaque juif, il arrive à briser cette Matsah-là, sache qu'à Kadosh Baruch Hu, comme ça, il a brisé la mer. La même facilité. Aussi facile que, tu vois, mon fils, aussi facilement que je coupe cette matzah en deux là, Hachem comme ça, ça n'était pas difficile pour lui d'ouvrir comme ça la mer en 12. Ça ne l'a pas dérangé. Alors, le Rida, il dit, c'est en souvenir de la coupure de l'esclavage de 400 ans à 210 ans. Donc, on brise la matzah aussi en deux, comme ça. Comme l'esclavage, il était coupé en deux. D'autres disent, le Khatam Sofer, notamment, dit que les deux morceaux qu'on va briser, ils représentent les deux Geoulot. La Geoulot Mitzrayim et la Geoula, ouais, devenue de Mashiach. La Geoulot Mitzrayim et la Geoulot Mashiach. Donc le plus petit morceau, ça représente Yetziat Mitzrayim. Il est petit. Pourquoi il est petit? Parce que comparé à la Yetziat qu'on aura au Zman Mashiach, ouais, c'est tout petit ce qu'on a eu en Égypte par rapport à ce qu'on va avoir à l'époque de Mashiach. Et la délivrance, donc ce qu'on va avoir en Mashiach, c'est le morceau d'Atikomat qu'on va cacher sous la nappe. Pourquoi on le cache? On l'appelle ça le tsafoun, on le cache, puisque la date à laquelle Mashiach va venir, elle est aussi cachée. C'est pour ça qu'on le cache, dit le Khatam Sofer. On continue. Donc on arrive à ma guide, on va raconter la Yetziat Mitzrayim. Alors, c'est marqué que Kadosh Baruch Hu, il est accompagné de tous les malachim, il descend dans chaque maison pour écouter comment ses enfants vont parler des miracles qu'il a fait en Égypte, dans le désert. Kadosh Baruch Hu, il est très très saméar de ça. Le Tiferet Shlomo, il dit, il ramène que c'est marqué dans le Zohar Kadosh par Shad Vayekel, Kouf Tzadik Vav là-bas, que chaque nuit, à Kadosh Baruch Hu, il rentre au Gan Eden, se réjouir avec les Tzadikim. Mais le soir du 15 Nissan, il ne rentre pas au Gan Eden. Il vient chez les Bnei Israël, il descend dans chaque maison. Hachem, il va au Gan Eden. Vous vous demandez ce que c'est le Gan Eden? C'est le plus grand délice qui soit. Hachem dit le 15 Nissan, je ne rentre pas au Gan Eden. Il vient dans chaque maison, il vient voir les Bnei Israël qui vont accomplir la Mitzvah de la Gada, de Matzah. Il y a un très 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 grand Gilui Shrina. Il y en a qui ont l'habitude de faire, de prendre le plateau et Yagbia Akara, on le soulève le plateau, on va tourner le plateau comme ça autour de la tête des convives. Bibinou ou bien Etmoun, c'est ça, Tunisien, Marocain, n'importe le monde. Et pourquoi on va tourner le plateau? Alors, combien de fois on tourne le plateau? Une fois, deux fois. Et un minag, très bon minag, de tourner le plateau sept fois. Sept fois autour de la tête des convives, pourquoi? C'est en souvenir en fait des sept nuées de gloire qui nous entourent dans le désert. Quatre aux quatre points cardinaux, est, ouest, nord, sud, une au sol, qui aplanissait les bosses, complétait les creux, qui brisait les serpents et les scorpions qui avaient la taille de poutre, une au-dessus pour nous protéger de la chaleur et de la pluie, et une devant nous pour nous indiquer le chemin à suivre. Et ça, c'est en souvenir, donc c'est pour ça qu'on soulève comme ça la Kehara sept fois autour des convives. Les Anané Kavod, c'est étonnant ce langage-là, Anané Kavod, les nuées de Kavod, les nuées de respect. Pourquoi on n'a pas appelé ça Anané Magen, les nuées de protection qui nous protégeaient? C'est quoi Anané Kavod? Comme ça, un jour, un chassid, il a demandé à Rabbi Israël de Rosine. Pourquoi on appelle ça Anané Kavod, les nuées de Kavod? Mais Israël de Rosine lui a dit, c'est vrai que c'est intéressant, il lui a dit, et pourquoi aussi, Vodarav, j'aimerais bien savoir, Pourquoi s'en souvenir d'Aaron à Cohen? C'est par le mérite d'Aaron à Cohen qu'il y a eu la année Kavod, les nuits de Kavod. Pourquoi ça? L'Adam Israël de Rosine lui a dit que lorsqu'une deux personnes elles parlent, il y a de leur bouche de la vapeur qui sort, il y a de l'air qui sort de la bouche quand deux personnes elles parlent. Il dit c'est étonnant, mais les scientifiques ils ont découvert que quand deux personnes ne s'aiment pas, cette air là, cette vapeur qui sort de leur bouche, elle va en sens contraire. En revanche, quand deux personnes s'aiment, se disent des mots gentils, s'apprécient, cette vapeur là, cette air là, elle va les entourer. Elle va les entourer, cette air là. Et dire à Israël de Rosine, c'est pour ça qu'on appelle ça l'anané kavod. L'anané kavod, c'est quoi ces nuits de gloire là? C'est toute la redoute qui avait été créée par Aaron HaKohen chez les Bnei Israël. Aaron HaKohen, il faut savoir qu'il a mis de la redoute dans tout le clan d'Israël. C'est marqué dans la Sefer Kalah Perek Shlishi là-bas que Aaron HaKohen, il a fait Shalom Bayit à 80 000 couples. Il y a 80 000 bachourim qui ont suivi son cercueil à sa mort. 80 000 bachourim qui s'appelaient tous Aaron. Ils venaient tous des 80 000 Shalom Bayit qu'il avait fait. Pour faire un Shalom Bayit Rabotai, vous demanderez à tous les spécialistes du Shalom Bayit, ça prend minimum 3 heures. Une heure avec la bonne femme, une heure avec le bonhomme, une heure avec les deux. 3 heures fois 80 000, ça fait 240 000 heures. 240 000 heures, ça fait 28 ans de vie. Aaron HaKohen a consacré 28 ans de sa vie à faire le Shalom entre les gens. Ça, c'est entre les hommes et les femmes. Et entre les juifs aussi, il faisait Shalom Aaron HaKohen. Et tout ça, ça crée une ardoute dans le clan Israël. Cette ère-là, c'est ça l'anané kavod. C'est cette ère, ce kavod que chacun se donnait, ça entourait le clan Israël et c'est ça qui les a protégés dans le désert. C'est l'ardoute, justement, qui nous protège. Si on veut être protégé des goïm, des flèches que les goïm nous envoyaient, aujourd'hui des bombes qu'on nous envoie, c'est cette ardoute-là qui est dans le clan Israël qui nous protège. Anané kavod et pas anané magen. La protection, elle vient du kavod que chacun y donne à l'autre, dit Rabbi Israël de Rosine. Alors on prend la Kehara, c'est marqué dans Shulchan Aruch, Yagbia a Kehara, Shiyeshba Matzot, Veyomar, Alachmania. On prend la Kehara, on soulève et on dit Alachmania. Le Tzemar Tzedek, Chodesh Nissan, j'ai vu ça il y a 4 ans, ça traînait, il y a des feuilles qui traînaient comme ça dans le collège où j'étais. À Friedman, il ramène ce Tzemar Tzedek là, Chodesh Nissan. Alors on prend, il dit Tzemar Tzedek, si on regarde ce qui est marqué dans Shulchan Aruch, c'est marqué Yagbia a Kehara. On soulève, on surélève la Kehara. C'est quoi Kehara? Kehara, c'est le plateau. Donc on doit surélever, il dit, à Friedman, c'est Martzedek, on doit surélever les lettres de Kehara. Si on surélève les lettres de Kehara, Kouf, ouais. Si on surélève le Kouf, quelle lettre on a? On a Resh. Bravo. Donc on a Resh, ici. Les Resh, là. Ensuite, si on soulève le Haïn, qu'est-ce qu'on a au-dessus du Haïn?
P.
On a P. Le P, il est là. Vous avez P. Très bien. Ensuite, on soulève le Resh. Qu'est-ce qu'on a au-dessus du Resh?
Chine.
On a Chine. Ensuite, on soulève le He de Kehara. Qu'est-ce qu'on a?
Vav.
Donc on a Chine. Ouais. Ensuite, on a Vav. Ensuite, on a P. Et ensuite, on a Resh. On a Shofar. Il dit le Tzemar Tzedek que par le fait de manger la matzah, le soir de Pessah, on peut annuler le din de Rosh Hashanah. Qu'est-ce que ça veut dire? On verra quand on arrivera à matzah. En tout cas, dit le Tzemar Tzedek, le soir de Pessah, en surélevant la Kehara, en intégrant le message que la matzah représente, on peut annuler le din de Rosh Hashanah. C'est aussi puissant que la Tkiyat Shofar. Kouf, c'est Resh, Aïn, c'est P, Resh, c'est Shin, He, c'est Vav, Shofar. Il dit, Marzedek, si on tend l'oreille, très étonnant, vers le plateau du Seder, il est possible d'entendre l'Atkiyat Shofar. Marrant, ça. C'est marqué dans le Sefer, Meor Chaim, là-bas, Chodesh Nissan, il a amené ça au nom de Rab Chaim Meir, le nom de Vishnitz, et il dit au nom de son grand-père, c'est Marzedek, il dit, c'est vrai que si on tend l'oreille vers le plateau, c'est possible d'entendre l'Atkiyat Shofar. Mais on n'a pas tous les mêmes plateaux, il dit, et on n'a pas tous aussi les mêmes oreilles. Le plateau qui était sur la table, ouais, du Tzemar Tzedek, et ses saintes oreilles, ses oreilles d'Akdoshot, il dit, vous pouvez entendre son Shofar. Mais nous, bon, on essaye, quoi. Faudrait quand même essayer. Comme ça, il dit. Très bien. Donc, on commence un petit peu à l'Agada. On voit au début de l'Agada que les élèves, ils viennent d'avertir leur maître que l'heure de Kiryat Shema, elle est arrivée. Qu'il faut réciter Kiryat Shema. Ils demandent le Rida, mais ils étaient où, ces élèves? Ils disent, à bien qu'il y a un mitarphone. Vous voyez là, Kiryat Shema, là, c'est arrivé, Kiryat Shema. Où est-ce qu'ils étaient pendant ces derniers Rida? On dit en fait que Rabbi Akiva et Darfon, ils ont renvoyé les Talmudim parce que les secrets qui allaient être abordés cette nuit-là, ils étaient tellement élevés que les Talmudim ne pouvaient pas rester. C'était impossible que les Talmudim restent, dit le Rabbi. Alors c'est marqué dans le Sefer Olelot Ephraim. Le Baal Agada, il demande Manishtana alaylaze mikol alelot. Shebechol alelot anachnu ochlim chametz somatza. Valaylaze kulo matza. Quelle différence il y a entre cette nuit et les autres nuits? D'où les autres nuits on mange chametz somatza. Et cette nuit-là, qu'est-ce qu'on mange? Kulo matza. Shebechol alelot anachnu ochlim shar yirakot. Valaylaze kulo maror. Shebechol alelot Ananumad Milin, Afilou Pamachat, on ne trempe même pas une fois, et cette nuit-là, on trempe deux fois. Pourquoi? Chez Bechol Alelot, on dit quoi? Des fois, on est assis, des fois, on est Mesoubine, Vala Ilazé, Kulanou Mesoubine. Donc, on a quatre questions. Manishana Ilazé, Nicolas Alelot, on demande pourquoi que Matza, pourquoi Char Yerakot, les autres nuits-là, que Maror. Troisième question qu'on a demandé, c'était quoi là, dans la Gada? On trempe deux fois. Et les autres fois, même pas une fois. Et quatrième question, des fois assis, des fois accoudé. Et là, on n'est que accoudé. Qu'est-ce qui répond le Baal Agada? Avadi, Maenou et Paro. On était esclaves de Paro en Égypte. Azak ou Paro. En me disant ça, en me répondant ça, tu me réponds pourquoi je trempe deux fois? Tu m'as pas répondu. En me disant Avadi, Maenou et Paro, tu me réponds pourquoi est-ce que je mange que du Maror? En me disant Avadi, Maenou et Paro, tu me dis pourquoi je mange que de la Matza et pas du Hametz? Ça répond pas. Il dit en réalité, on lit très mal la question de la Agada. La question du Baal Agada, il y en a une seule. Manishtana alaylaze mikol alelot. Quelle est la différence entre cette nuit-là et toutes les autres nuits? Ça, c'est la seule question du Baal Agada. Les quatre autres questions qu'on pensait être des questions, c'est en fait des réponses. Manishtana alaylaze mikol alelot. C'est quoi laïla? Laïla, c'est notre exil. Cette galoute là qu'on subit depuis 2000 ans. Pourquoi il y a un exil qui est aussi long? Manishtana alaylaze mikol. Pourquoi notre exil est aussi long par rapport aux autres exils qui n'ont duré que 70 ou 210 ans? Pourquoi c'est aussi long? Pourquoi c'est aussi... Et là, il répond. Shebechol alelot anachnu ochlim chametz o matza v'alaylaze kulo matza. Dans toutes les autres nuits et tous les autres exils, il y avait du chametz et de la matza. C'est quoi le chametz? C'est la machloket, les disputes. Il y avait, mais il y avait aussi Matzah, il y avait aussi de la simplicité, il y avait aussi de la redoute dans le clan Israël. Alaylaze, le Baal Agada, il aurait dû dire Kulo Hametz. Mais par Kavod de la Sourdine, on va dire Kulo Matzah. Dans notre génération, il dit le Baal Agada, tu sais pourquoi c'est si long? Parce qu'il y a des machloktot. Parce que dans les maisons, entre les mariés et les femmes, dans les choules, il y a des machloktot. À l'époque, il y avait aussi une redoute. Aujourd'hui, on la trouve moins, cette redoute-là. Deuxième raison pourquoi c'est aussi long. Chez Bechol Anarnochlim, Shari Rakot. Alors il disait Kulo Maror. C'est quoi Maror? C'est l'argent. Maror, c'est ce qui rend amer la vie des gens. Le Kesef, l'argent. Alaylaze Kulo Maror. On est tous pris par notre travail. On est tous pris par ce monde-là. Kulo Maror, dit le Baal Agada. Intéressant, dans la Gemara, dans Sanhedrin, elle dit que les Chachamim, ils ont annulé les Yetzirah de la Vodazara. Yetzirah de la Vodazara, ils l'ont annulé. Après, ils ont voulu annuler les Yetzirah des femmes, ils ont juste mis du bleu sur les yeux pour l'atténuer un petit peu, mais les Tzara d'Avodazara, ils l'ont annulé, les Tzara d'Avodazara. Et les Tzara d'Avodazara, qu'est-ce qu'il a fait? Il est, c'est un lion de feu est sorti du Kodesh à Kodashim. Un lion de feu est sorti du Kodesh à Kodashim. Et Chazon Ish dit que ce lion de feu-là, qui est les Tzara d'Avodazara, il est monté Bashamayim, et il a dit: Hachem, je t'en supplie, laisse-moi revenir en Gilgoul. Tu m'as annulé en train d'Avodazara, ça marche, mais laisse-moi revenir en Gilgoul. Il dit: j'accepte. Dit le Chazon Ish, c'est quoi le Gilgoul de Yetzera de l'Avodazara? Il dit, c'est à Kesef. C'est l'argent. Il est revenu dans l'argent. Le Yetzera qu'un homme il a par rapport à l'argent, c'est un simili, c'est un relan du Yetzera de l'Avodazara. Il y a un amour qui disait, une pièce c'est rien, c'est tout petit. Mais tu le mets devant les yeux, tu vois plus rien. Yetzera, Kulo, Maror. C'est intéressant de voir qu'il est sorti du Kodesh à Kodashim. Certains des fois disent, mais c'est une mitzvah, je fais une mitzvah maintenant, c'est le business, c'est une mitzvah. Du Kodesh à Kodesh, il peut sortir aussi de l'Avodazara. Très intéressant. Troisième raison pour laquelle c'est aussi long, chez Bechol Alot, Anahnoubanim, Afilou, on ne trempe même pas une fois. Et cette nuit-là, on trempe deux fois. Le fait de tremper, ça fait allusion au désir physique, au plaisir matériel qu'un homme il a. Alaylazé, shtepamim, cette fois on trempe deux fois. Aujourd'hui, il nous manque ça, il nous manque ci, il faut que j'amène ça à la maison, il faut que j'achète ça, et l'iPhone 6, et l'iPhone 7, et l'iPhone 8, et j'ai besoin de ça, et j'ai besoin de ci, et je veux ça, je veux ci. Mon rave, il disait, tu rentres au supermarché, t'as 150 000 boissons. Qu'est-ce que t'as besoin de 150 000 boissons? Prends une boisson comme ça, et tu restes comme ça un quart d'heure devant. Je vais prendre ça, je vais prendre ci. Alaylazé, shtepamim, deux fois on trempe. Deux fois, c'est à quoi on est vraiment bien englouti, bien par ce monde-là. Quatrième raison pour laquelle c'est aussi long, on mange des fois assis, des fois accoudé. Cette fois-ci, on est coulanus, on est tous accoudés. Pourquoi c'est aussi long? Parce qu'on est tous accoudés, on se prend tous pour quelqu'un. On a tous un petit peu de gava en nous, tous un petit peu de kavod. Même les gens qui ne devraient pas en avoir, ils en ont quand même. Après, Mchodavis, un jour, il est allé Shiva, il sort pour rentrer chez lui. Et il voit là-bas un camion déboueur devant la Yeshiva de Mir. Et vous savez, dans les déboueurs, tu as un bonhomme qui conduit, tu as un qui est à côté de lui, et tu as un troisième qui va chercher les poubelles. Ouais. Et il se met debout là, comme ça, sur le camion derrière. Et quand les boueurs qui étaient derrière, comme ça, sur le camion, il voit Abraham Shmulevitz, il le regarde, et il est impressionné par le Rav, quoi. Et donc il dit au Rav, il dit, Vodara, vous savez, moi après, je vais être devant, et celui qui est devant, il va être derrière. Hein. Abraham Shmulevitz, il rentre. Au lieu d'aller chez lui, il rentre à l'Yeshiva, il fait Sicha, Rabotai, Sicha, Bar Torah. Il ramène tous les tamis, ils sont là. Il dit, regardez Rabotai, jusqu'à où le kavod peut aller, jusqu'à où l'orgueil peut descendre. T'es dans les poubelles maintenant. Qu'est-ce que ça te change d'être devant, d'être derrière? Tu vois pas ce que c'est? Ça, Alaylazé, Kulanu, Mesoubin. On est tous, moi je. C'est pour ça que c'est aussi long, dit le Sefer Olot Ephraim. On continue Rabotai. Alors le Chida, il écrit dans ce Sefer Pe'echad que lorsqu'on regarde les premières lettres des noms des Tanaïm, Akdoshim, qui sont mentionnés dans la Gada, Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua, Rabbi Elazar ben Azaria, Rabbi Akiva, Rabbi Tarfon, ça fait 91. Première lettre de Rabbi Eliezer, 1. Première lettre, donc c'est Aleph, c'est Echad. Rabbi Yoshua, Yud, ça fait 10. Rabbi Elazar ben Azaria, c'est Elazar, c'est Aleph, c'est 1. Rabbi Akiva, ça fait Aïn, 70. Rabbi Tarfon, ça fait, c'est lettre tête, ça fait 9. Donc 9 plus 70 plus 1 plus 10 plus 1, on arrive à 91. C'est égal à la gématria de Adnout, Adoshem, plus Yudke Vavke. Et c'est marrant de voir qu'ils étaient où, ces Chachamim-là. Ils étaient à Bnei Brak. Bnei Brak, dit le Chida, gématria Asatan. Gématria Asatan, Bnei Brak. Donc ce soir-là, par leur Torah, ils ont brisé la force du Satan. Il dit la grande Babatra, ou à Satan, ou à Yetzerara, ou à Malach Hamabet. Ils ont réussi par leur Torah à briser la force de Yetzerara. Intéressant de voir que la ville de Torah, la gématria de Asatan, il y avait quelque chose peut-être à réparer là-bas, Mistama. Alors, c'est marqué Rabotenu, Yazman, Kiryat Shema. Alors, dans le Sefer, à Terot, à Dar, là-bas, il demande pourquoi est-ce que c'est les Talmidim qui sont venus prévenir leur Rabbanim? Ouais, c'est Kiryat Shema. Et Rabbanim, ils ne faisaient pas attention. Rabbi Akiva, on parle. Rabbi Akiva, mort au jour de Yom Kippour, 120 ans. Moshe Rabbeinu, quand il l'a vu, Omar Benachot, elle dit, il a dit, qui me donne la Torah à moi? À lui, donne-lui la Torah. Je ne fais pas attention à Kiryat Shema, Rabbi Akiva. Quoi, cette histoire? Ouais. Pourquoi c'est Talmidim qui sont venus le prévenir? Nous, les Rabbanim, ne faites pas attention, Rabbi Tarfon. Ouais. Il dit que c'est écrit dans le parquet de Rabbi Eliezer là-bas, que lorsque Rabbi Eliezer, il était assis et il parlait de Torah, son visage, il éclairait comme la face du soleil. Et un homme, il ne pouvait pas savoir s'il faisait nuit ou s'il faisait jour. Donc la pièce, elle était remplie de lumière, mais il ne savait pas les rabbanim. Il faisait jour, il fait nuit, c'est vraiment, c'était des néons son visage, quoi. C'était éclairé dans toute la pièce. Seuls les talmidim qui étaient à l'extérieur, comme l'a dit Rida tout à l'heure, parce qu'ils ne pouvaient pas rester tellement que c'était élevé, eux, ils savaient qu'il faisait vraiment jour. Ils sont venus, ils disent, la nuit est tombée, sachez que s'il fait jour, c'est à cause de sa tête. Mais sinon, il fait nuit, il fait jour. Donc il faut faire qu'il y ait un chemin maintenant. C'est pour ça que c'est les talmidim qui sont venus les prévenir, et les rabbanim, les maîtres, ils faisaient attention, mais ils ne savaient pas. Encore, c'était vraiment le jour. Amar Belazar ben Azaria, Are Ani Keben Shivim Shana. Belazar ben Azaria dit, voici, je suis comme quelqu'un qui est Ben Shivim Shana, qui a 70 ans. Le Harizal dévoile que la Neshama de Rabbi Belazar ben Azaria, c'était celle de Shmuel Anavi. C'est Shmuel Anavi, qui a vécu combien? 52 ans. 52 ans. Et le Magela Moukot, il dit que selon la Gemara, qui nous dit que Rabbi Belazar ben Azaria, il était âgé de 18 ans, lorsqu'il a dit ça. Alors, la chose s'éclaire parfaitement. C'est quoi ce qu'il dit? Areani Keben Shivim Shana. Je suis Keben, comme Ben Shivim Shana. Ben, c'est Bet Noun, c'est 52. Il avait 18 ans. J'ai 18 ans à moi, plus Ben, plus ses 52 ans de vie de Shmuel Hanavi. Et donc, j'ai 70 ans. Dit Rabbi Elazar Ben Azaria. Racha Mahomer, dit la Agada. Donc, dans Agada, Menachem Sion, là-bas, c'est écrit. On dit au Racha, le Racha nous dit Ma avoda zot lachem. C'est quoi cette avoda-là pour vous? C'est quoi cette avoda-là? C'est quoi la chila du Racha? Nous, on a l'habitude toujours d'expliquer Ma avoda zot lachem. Pour vous et pas pour lui. Il explique différemment, lui. Le Racha, il demande Moi, j'ai vu. Vous êtes le soir du Seder, là, Rabotai. Il dit, moi, j'ai vu des gens en Vedé Hachem, il dit le Racha. Ils sont en Vedé Hachem, Batora, Batfila, Betaanit, avec des Taaniot, des souffrances. Mais vous, vous mangez de la viande, vous buvez du vin, vous kiffez. C'est de la Vodat Hachem, ça. Ma Vodat Azot, Lachem, Velo Lachem, dit le Racha. C'est quoi cette Avoda, là? C'est pas c'est quoi cette Avoda pour vous et pas pour moi. C'est quoi cette avoda là que vous dites avoda Hashem? Ma avoda azot que vous dites que c'est pour Hashem. C'est pas pour Hashem, ma avoda azot. C'est la chem ça. C'est pas la chem, il dit le Racha. C'est pour ça qu'on doit faire quoi? On doit lui casser les dents pour que sa achila à lui, la manière dont il mange, elle soit un petit peu plus lishma. Lui, il n'arrive pas à comprendre qu'un homme il peut manger pour un Kadosh Baruch Hu. Il comprend pas qu'un homme avant de manger, il sait faire une bracha. Il sait dire merci à Kadosh Baruch Hu. J'ai un ami, moi, à chaque fois avant de manger, il prend un temps, et avant de faire la bracha, il dit merci à Kadosh Baruch Hu. Merci pour ce verre de coca que tu vas me donner là. J'ai soif, Hachem. Merci beaucoup. Après, il fait la bracha. Il fait deux brachot, quoi. Vraiment, il prend conscience. Il prend conscience de ce qu'il fait. Il dit, Hachem, tu m'as donné à manger, j'aurais pu crever de soif. J'aurais pu mourir de faim. Merci, Hachem Barar. Manger pour Hachem, le Racha, il ne comprend pas. Ma voda azot, vous mangez, vous buvez, vous dites que c'est pour Hachem. Ma voda azot, lachem. Raconte que le Baal Shem Tov, c'est la midi, ils sont venus le voir, Erev Rosh Hashanah. Ils lui ont dit, donnez-nous la solution. Donnez-nous la clé pour être zoché au dîme de Rosh Hashanah. Comment est-ce qu'on peut passer le dîme de Rosh Hashanah? Une avodat Hashem. Donnez-nous un derrière dans avodat Hashem. Il leur a dit, allez voir Rabbi Moshe. Rabbi Moshe? Ouais. Rabbi Moshe, il est où? Dans telle ville. Alors tu vois, 70 chassidim comme ça, avec leur char, avec leur carrosse et les chevaux, ils arrivent comme ça, ils arrivent dans la grande ville. Et ils cherchent Rabbi Moshe. Il est où Rabbi Moshe? On veut savoir où il est Rabbi Moshe. Il n'y a pas de Moshe ici. Non, il y a Rabbi Moshe. Il n'y a pas de Moshe. Il n'y a pas un Moshe. Si, il y a un Moshe, mais pas Rabbi. C'est qui Moshe? C'est Moshe le très 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 gros, on l'appelle. Quoi? Moshe le très 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 gros. On veut le voir. Bon, ça doit être lui peut-être. Ils arrivent, ils voient, ils frappent à la porte. La porte est très très large. Ils comprennent pourquoi après. La porte elle s'ouvre. Ils voient un homme près de 320 kilos. Énorme. Énorme comme on n'a jamais vu. Ils disent, vous appelez Moshe? Il dit, oui, c'est moi. Il dit, je suis le seul à m'appeler Moshe dans la ville en plus. Un chassid dit à l'autre, ça doit être lui. On va rester, on va voir. Ils restent, ils arrivent. C'est Erev Shabbat. On peut passer Shabbat chez vous? Mais bravo, passez Shabbat chez moi. Ils se préparent. Shabbat, les chassidim se préparent. Shtraimel, etc. Rabbi Moshe prend sa douche. Ils vont à la choule. Ils voient que Rabbi Moshe, il ne prie pas. Ni vent phonétique, ni quoi que ce soit, il prie pas. Il est comme ça, il attend. Et tout le monde prie, Shemit Barar. Bon, il observe, peut-être que le Pikabala, il doit prier dans sa tête, je ne sais pas ce qu'il fait, mais bon, il voit qu'il n'y a rien du tout en fait. Il est comme ça, il attend. Ils arrivent à la maison, Seouda, Shabbat, Seouda extraordinaire. Seouda magnifique, mamash. Tous les meilleurs plats, meilleurs mets, délicieux. Et il voit, bon, chacun il a un petit bout de pain et tout, et il voit que Rabbi Moshe, il mange. Il leur laisse quelques miettes seulement. Il mange. Incroyable. Ils mangent comme ça, on comprend pas nous. Vendredi soir, passe, ils vont dormir. Il y a un Atracide qui attend de voir Rabbi Moshe. Peut-être la nuit, il étudie, on va voir ce qui se passe. Rien du tout. Shabbat matin, ils se lèvent devant la choule. Rabbi Moshe vient avec eux, ils accompagnent. Ils prient toujours pas. Ils arrivent sous date midi. Ils mangent. Oh là là, c'est quoi ça? Mincha, tac, ils vont. Tac, ils vont, ils mangent. C'est la shlichit, ils mangent. Ils mangent encore. L'autre, il dit, Arsid dit à l'autre, on va y aller parce que sinon ils vont nous manger à nous après. Faut y aller là. C'est bon, c'est Avdala quoi. Oui, Avdala, ils font Avdala. Et Arsid qui dit à l'autre, il dit, bon, avant de partir quand même, il faudrait le trouver une chéla, c'est important. Ils vont le voir, ils disent, là, on va savoir. Pourquoi est-ce que vous mangez autant? Ça se fait, manger autant. Il leur a dit, lorsque j'avais 4 ans, j'étais avec mon père, j'étais dans la forêt, on se baladait. Et là-bas, il y a deux goïm qui sont arrêtés, un prêtre avec un soldat. Et le prêtre, il a dit à mon père, soit tu te prosternes devant la croix, tu dis que c'est ton Dieu, soit je te brûle. Mon père, bien sûr, il a refusé. Mais quand il les a vus arriver, il m'a dit tout de suite de m'écarter et de me cacher. Je me suis caché derrière l'arbre. Et ils ont brûlé mon père devant mes yeux. Mon père, sachez, il faisait 35 kilos. Il était tout maigre. Si un jour je dois brûler pour Hachem, je veux que ça prenne du temps. Je veux que ça prenne du temps. Il a mangé toute sa vie pour Akadosh Baruch. C'est pas ce qu'on nous demande. On prend de l'idée. Ma'avoda azot. C'est la chem ça. C'est pas la chem. Non, Dieu Racha. C'est pas vrai. On sait manger pour Akadosh Baruch aussi. On sait faire une bracha avant. On sait distinctement. On sait. On comprend la valeur d'une bracha. On sait comment c'est grand une bracha. C'est pas stam. Baruch, Ata, Hashem, Elokeinu, Melech Haolam, Shakol, Nia, Bidvaro. Pas avaler des brachot comme ça. Un picou, c'est un bachour, un jour, il a fait une bracha. Il a avalé la bracha. Oh, j'ai une zonote. Et un picou, il voit qu'un bachour voit qu'un picou, tu regardes. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Je vais manger sans bracha. Ah, je mange sans bracha. Il ne sait pas comment t'as fait la bracha, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que tu viens juste de cracher au visage de la Kadosh Baruch. Faire une bracha. Prendre du temps, 10 secondes. Merci Hachem pour ce que tu m'as donné. C'est extraordinaire. Il y avait en Inde comme ça un Israélien qui est parti de l'armée. Il est parti là-bas après l'armée. Ceux qui ne sont pas trop dans le Torah comme ça, ils vont un peu prendre l'air là-bas. Et il est sur la plage. Il est sur la plage là-bas. Et il voit. Il se rapproche un peu d'Hachem. Il y avait un Betrabad là-bas, il se rapproche un petit peu. Il achète une banane au marché. Il prend la banane. Il ouvre la banane. Il dit allez, je vais faire la bracha. Je vais la bracha. Et d'un coup, il voit 150 mètres à côté de lui, ils font là-bas un fakir, vous savez, les bonhommes hindous là, en slip, torse nu, avec un truc sur la tête, il court comme ça, il court vers lui comme ça, il dit, oh, qu'est-ce qu'il veut celui-là? Il court. Il s'approche de lui, il dit, refais ce que tu viens de faire. Il dit, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu as murmuré quelque chose là, remurmure ça. Il dit, je peux pas. Comment je vais expliquer un fakir, bracha levadala? Il dit, je peux faire deux fois de ça. Il dit, refais. Il dit, pourquoi? C'est un peu sorcier comme ça. Il lui dit, pourquoi? Qu'est-ce que tu veux? Il dit, non, parce que avant que tu manges ta banane, il y avait une écorce noire autour. Une fois que tu l'as mangée, l'écorce noire est partie et la lumière qui est venue autour de la banane. L'ostam, Rabotai. Une bracha, c'est l'ostam. Adam Shir. Le Al-Shir, il dit, et le Rogat Abosem aussi, il dit ça, que Racha, c'est Gematria 570, et Shinav, casse-lui les dents, Shinav, c'est Gematria 366. 570 de Racha, moins Shinav, moins les dents que tu lui casses, 366, ça fait combien? 204, Gematria de Tzadik. Donc en fait, casser les dents, ça veut dire quoi lui casser les dents? Ça veut dire l'amener doucement, doucement à la Torah pour qu'il devienne aussi Tzadik comme les autres. Gematria de Racha, moins Gematria de Shinav, que tu vas briser, ça fait la Gematria de Tzadik. On va me Donc on sait que les Israël ils sont arrivés à 70 et ils sont multipliés de manière surnaturelle. C'est marqué dans la Psikta des Rav Kahana, là-bas, Psikta Kufpehe. Il y a deux Amorim qui sont en discussion sur le mot Vaishretsu. Il a chanté Sheretz. Il y a un qui dit qu'on compare les Bnei Israël au plus grand des Shratzim, c'est la souris, qui donne naissance à 6 bébés par portée. Et l'autre dit non, on compare ça au plus petit des Shratzim, c'est le scorpion, qui donne naissance à 60 bébés par portée. Donc les Bnei Israël, certains, disent qu'elles avaient 60 enfants par portée. Il y a Ibn Ezra, intéressant, qui dit qu'il y a une femme comme ça dans son pays qui a accouché de 70 enfants. 70 enfants. Ils ne sont pas restés en vie, mais elle a accouché de 70 enfants. À l'époque du Ibn Ezra, très intéressant.
C'est sa vie.
Pardon?
C'est
sa vie. Et non, une fois. Hein? Ouais. C'est incroyable. Moi aussi, j'ai eu la même réaction que toi, Rabbi Khan. Alors, c'est marqué. Tout fils qui naîtra, vous le jetterez dans le fleuve, et toute fille qu'elle vive. Tout garçon, vous jette dans le fleuve, et les filles qu'elle vive. Rabbi Lubavitch demande, il dit, mais je ne comprends pas, tu m'as dit, tout garçon qui est dans le fleuve, tu le jettes, très bien. Pourquoi tu as besoin de me dire, et toute fille qu'elle vive? Si tu m'as dit, les garçons, tu les jettes dans le Nil. Ouais, alors, je comprends mimélé, que c'est seulement les garçons et pas les filles. Pourquoi tu as besoin de me dire, et les filles qu'elles vivent? Dis-moi, les garçons, tu les jettes. Et je comprends quoi? Pas les filles. Mais non, les garçons, tu les jettes et les filles qu'elles vivent. Dis le Rabbi Lubavitch. Les garçons, on devait les tuer physiquement. On devait les tuer physiquement. Tu les jettes dans le fleuve. Et les filles qu'elles vivent. C'était aussi une xéra, il dit le Rabbi. C'était aussi une xéra. Elles vont vivre avec nous. On va les assimiler. on va se marier avec elle. Ça aussi, c'était une xéra. Tout mâle nouveau-né vous jetera dans le fleuve. Le rabbi dit ailleurs qu'en réalité, pourquoi il a demandé de les jeter dans le Nil ? Si tu veux les noyer, alors noie-les dans leur baignoire. Tu rendez-vous compte un petit peu. Les gens qui habitaient à l'autre bout de l'Égypte, le Nil, il n'était pas forcément à côté. Donc il fallait qu'ils prennent les bébés et aller les mettre dans le Nil là-bas. Prends le bébé, noie-le, ou dans un puits à côté de la maison, ou bien dans la maison, dans le lavabo, ou ce que tu veux, mais noie-les là-bas. Ouais. Pourquoi les noyer dans le Nil ? Alors il dit que le Nil, en réalité, ça représentait l'artère vitale de l'Égypte. L'import-export, la pêche. Les Égyptiens, ils n'ont jamais les yeux levés au ciel. Il n'y avait pas de pluie. Tout dépendait du Nil. C'était la Parnassa. C'était là, vraiment, la Parnassa. C'était toute leur vie, c'était le Nil. Paro, il a dit, c'est ça que je veux avec les Bnei Israël. C'est aussi une xéra spirituelle sur les garçons. Vous allez prendre les garçons, les Bnei Israël, qui doivent normalement étudier la Torah Gdosha, et vous allez les prendre, et vous allez les noyer dans ce Olam-là. Vous allez les mettre dans ce monde de Parnassa. Ils ne vont plus penser à Hachem. Vous allez les noyer dans le Nil qui représente la volonté de faire une carrière, de se détacher d'Akadosh Baruch Hu. Vous allez les noyer là-bas, dans ce Nil-là, au Todavar, dans les pyramides. Ils vont participer à l'édifice de la nation. On va les mettre dans les pyramides. C'est eux, ça va être les briques qui vont construire la nation. C'est comme ça qu'on va réussir à détruire le pays Israël. C'est en le détachant de la Torah et en les faisant participer à la culture et aux valeurs de notre nation. Alors, c'est marqué que dans le Midrash, que les Égyptiens, ils ont désigné des gardes, des policiers spéciaux, et ils avaient pour rôle de contrôler les naissances. Ils devaient découvrir où est-ce qu'il y avait des nouveau-nés. Qu'est-ce qu'ils faisaient les Égyptiens ? Ils faisaient tourner leurs enfants, à côté des maisons. Dès que les enfants, ils entendaient des naissances, tout de suite, alors les Égyptiens, ils amenaient leur armée, ils prenaient les enfants là-bas. Et donc, ils allaient prévenir leur père, dit le Tana de Eliyahu. Et des notes Israël, les pauvres, elles, de tout leur cœur, elles essayaient de ne pas pleurer au moment de l'accouchement. Donc, elles disaient à leur mari, s'il te plaît, mets-moi la main sur la bouche pour pas que je crie. Et donc, même contre ça, les Égyptiens, ils se sont ingéniés. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont ramené leur propre bébé dans les maisons des Juifs. Ils rentraient avec le bébé dans les maisons des Juifs. Ils frappaient leur propre bébé. Et on sait que quand un bébé il pleure, il fait pleurer l'autre bébé. Donc, dès qu'ils frappaient leur bébé, ça, ils poussaient un cri. Et le bébé qui était caché, il criait aussi. Et comme ça, ils arrivaient à découvrir les bébés, tous les bébés qui étaient cachés. C'est marqué dans le Midrash que les souffrances que les Bnei Israël ils ont souffert, ils ont subi en Égypte, c'était tellement dur que la majorité, le rov des Bnei Israël, ils étaient atteints d'infirmité. Il y avait des boiteux, des aveugles, des manchots. C'était vraiment très 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 dur ce qu'on a vécu là-bas. Alors, et pour ajouter à l'avilissement que je voulais mettre sur les Bnei Israël, qu'est-ce qu'ils ont fait les Égyptiens ? Ils ont pris des ânes et ils ont dit, vous allez mettre vos pieds dans le mortier avec les ânes. Il y avait des ânes d'un côté et les Bnei Israël de l'autre. Ils les comparaient comme ça à des Chamorim. Et ils ont fait dormir les hommes dans les champs et les femmes dans les maisons. Ils voulaient aussi comme ça, les Égyptiens, par cette manière, de tenter de briser la vie familiale qu'il y avait chez les Bnei Israël. Et même le sang qui coulait, les Égyptiens, ils s'en fichaient totalement. Ils disaient le Midrash, qu'il n'y avait pas de jour de maladie, il n'y avait pas 35 heures, quoi que ce soit, grossesse, faiblesse, ça n'existait pas tout ça. Même pendant l'accouchement, la femme, elle devait travailler. Au moment des douleurs de l'enfantement, elle devait rester. On ne la laissait pas s'allonger. Et on raconte que la fille de Shutelar, elle a accouché de son propre bébé comme ça au milieu des briques. Elle a écrasé une fruit de ses entrailles comme ça. Le Malach Michael, il est venu, dit le Midrash, il a pris cette brique-là dans laquelle il y avait le bébé. Il a été devant Hachem. Hachem lui a dit, maintenant je vais décider d'exterminer le peuple égyptien et de libérer mon peuple. Et si l'esclave hébreu, il n'avait pas terminé ouais, son quota de briques, alors même s'il manquait qu'une seule brique, il devait payer cette brique-là au moyen d'un de ses enfants qu'on mettait comme ça dans le mur. Et les Égyptiens, ils faisaient construire sur des terres mouvantes pour qu'aucune construction ne dure. Et ça, ça cassait vraiment le moral d'Israël parce qu'il n'y avait pas de but en fait. Tu travailles pour rien en fait. Et les Égyptiens, ils considéraient l'agneau comme une divinité, donc c'est pour ça qu'ils ne le sacrifiaient pas. Ils sacrifiaient quoi à la place ? Ils prenaient les bébés des Israël et les brûlaient comme ça à leur Dieu. Adam Shir. Le Rabbi Ephraim, c'est des Rishonim, il dit que les Égyptiens, après avoir ordonné toute la journée aux Bnei Israël de construire, avant d'aller dormir, leur disaient, regardez, vous avez construit, vous allez tout détruire maintenant, ouais, et demain vous recommencez. Ils n'avaient pas la satisfaction d'un travail accompli. Quoi. Alors pourquoi Paro, il a dit, pourquoi est-ce que Paro, il a décidé de tuer les bébés de cette manière ? Pourquoi est-ce que avec l'eau? Pourquoi pas les tuer avec un couteau? Pourquoi pas les égorger? Pourquoi il a voulu mettre dans l'eau? Les noyer dans l'eau? Pourquoi? Pourquoi dans l'eau? Alors, bon, Gemara dans Sota, elle dit qu'il a vu, à travers ses astrologues, que le libérateur des Juifs, il allait être frappé par l'eau. Ouais. Et ce qui, il s'est trompé. Il ne savait pas que ce n'était pas par l'eau, mais à cause de l'eau, en fait. C'est la première raison, on la connaît tous. Il y a un Sefer Kelat Yitzra qui est très intéressant. Il dit pourquoi avec de l'eau? Pourquoi il n'a pas voulu les noyer? Pourquoi il a voulu les noyer absolument? Pourquoi de l'eau? Pourquoi il n'a pas fait autre chose? Tuer? Pourquoi les noyer? Il ramène, comme ça, une Gemara dans Sanhedrin. Il raconte que Zéhiri, il a acheté un âne chez un Égyptien. Il a acheté un âne à un Égyptien. Il rentre à la maison après avoir acheté l'âne. Et il donne à boire à l'âne. Et l'âne, il boit. Et au moment où il boit, il se transforme en planche de bois. Il ne comprend pas le Zéhiri. Il retourne chez le vendeur. Il dit, Mechila, vous m'avez vendu un âne et je me retrouve avec une planche de bois. Il dit, regarde, moi je suis un Égyptien, on est sorcier de père en fils. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on prend n'importe quel ustensile, du bois, n'importe quoi, et on transforme en ce qu'on veut, après on le vend. Normalement, je ne dois pas te rendre l'argent, parce que tu dois savoir qu'Égyptien, on joue comme ça, mais comme tu as mis Tracham, je vais te rendre cet argent-là. Je te rends l'argent, mais tâche la prochaine fois de faire attention. Il dit, mais la sorcellerie aussi, au contact de l'eau, elle reprend son état initial. C'est pour ça que quand tu as donné à boire à ton âne, il est redevenu en planche de bois. Il dit que la titrak, c'est ça qui est Paro en fait. Paro, quand il a dit vous devez noyer les bnei Israël, les bébés, pourquoi? Parce qu'il a craint, il pensait que les bnei Israël, quand on allait leur demander leur bébé, ils allaient donner quoi? Du bois, transformé par des noms. Vous savez que les bnei Israël, ils avaient un contact aussi avec la Gdusha, transformé par des noms de Gdusha, ils ont transformé des choses en bébé. Il dit le seul moyen de savoir si c'est vraiment leur bébé qui donne, c'est de le mettre en contact de l'eau. C'est pour ça qu'il les a noyés. Il les a mis dans l'eau. Et dès qu'il voyait que le bébé restait bébé était vraiment noyé, alors c'était terminé. Dès qu'il se transforme en planche de bois, il est obligé de retourner. Il retourne à la maison et il recherchait vraiment le bébé. Alors le Midrash chez Rachim Rabbah, là-bas, il dit qu'il y a 1 million de bébés qui ont été jetés dans le fleuve. 1 million. 1 million à Botan. C'est marqué dans le Pirkei de Rabbi Eliezer.
Okay, ils sont morts tous.
Alors, il y a une Gemara dans Sota. Il y a une histoire entre Midrash et la Gemara dans Sota qui disent qu'ils ne sont pas morts, ces bébés-là, qui sont sortis après sur le rivage. Et ils ont été élevés là-bas sous un pommier. Et après, ils ont été élevés, ils sont rentrés chez eux quand ils étaient un peu plus grands. Il dit, qui c'est qui t'a élevé? Je sais pas, j'ai été élevé comme ça. Hachem, je sais pas, on m'a donné à manger, on m'a donné à boire, j'ai été élevé comme ça. Et après, quand ils ont traversé la mer Rouge, ils sont arrivés, ils ont traversé la mer Rouge, ils ont dit, quand ils ont vu la Shrein, Zekeli Vandehu. C'est quoi Zekeli Vandehu? C'est lui qui m'a nourri, c'est lui qui m'a donné à manger, c'est lui qui m'a sauvé, c'est lui, je sais maintenant, je vois que c'est lui. Il se tira comme ça dans les Midrashim, entre Midrash et le Maran Sota. Alors, Rabbi Tzrak de Vologine, il dit qu'en privant les bnei Israël de paille et en les obligeant comme ça à aller chercher comme ça de la paille dans les champs, alors les Égyptiens en fait ils ont voulu engendrer des disputes entre les Juifs. Parce qu'il faut savoir s'ils n'avaient pas assez de briques ou s'il y a assez de paille, on prenait leur bébé, on devait le mettre dans le mur. Donc chacun il se battait, il ne voulait pas que son bébé meure. Donc il devait se bagarrer, ça brisait totalement la redoute chez les bnei Israël, cette xéra là de les ramasser de la paille. Le Sifte Cohen, il écrit que le mot Mitzrayim, il est composé d'un même ouvert et d'un même fermé. Il dit que l'Égypte, elle était scellée par toutes sortes de sorcelleries. Il n'y a aucun homme qui est jamais sorti d'Égypte. Donc, tu pouvais rentrer en Égypte, mais c'était impossible de sortir. Tu ne pouvais pas sortir. C'est marqué dans le Midrash là-bas qu'il y avait 10 portes en Égypte et chaque porte, elle avait la forme d'un animal. Un cheval, un âne, un chien, un lion, un agneau, un chameau. Et si une personne est tentée de sortir par une des portes, alors la porte par laquelle elle est tentée de sortir, elle hurlait, ainsi que tous les animaux de la même espèce, de la porte, elles hurlaient comme ça, on pouvait savoir par où le fugitif voulait s'enfuir. Donc de bonhomme, il ne sortait pas par des chiens, tous les chiens commençaient à aboyer, et là, quelqu'un veut sortir, ils allaient et l'ont rattrapé. Madame Amloès raconte qu'il y avait des murs invisibles, carrément, quoi. C'était comme des murs électriques, tu ne pouvais pas sortir, c'était pas possible. Tu étais rejeté en arrière, directement. Alors, après, on voit le bâton de Moshe Rabbeinu. Zé amaté, dit la Agada. Alors, sur ce maté, il y a pas mal de choses à dire. C'est marqué dans le Midrash Agadol, sur le Passouk, là-bas. Vet amaté, azé, tikar beyatra, Rabbi Lévi Omer. Ce maté-là, il a été créé par Akash Baruch Hu avant le Shabbat de la création, Ben Hashmashot. Il a été donné à Adam Arishon, au Gan Eden. Après, il a transmis à Hanor, à Noach, Shem, Abraham, Yitzhak, Yaakov, il est descendu en Égypte. Yosef, il a récupéré. Quand Yosef, il est mort, alors on a saisi toute sa maison. Et ce bâton-là, il est arrivé dans les mains, dans les trésors de Paro. Et Yitro, son conseiller, il l'a volé avant de s'enfuir. À Midian, là-bas, il l'a pris, il l'a planté dans son jardin. On dit que ce bâton-là, il pesait 40 CA. Alors, 1 CA, sur l'Ephraïm Naé, c'est 8,294 kg. Et sur l'Ephraïm Naé, c'est 14,393 kg. Donc, ce bâton à 40 CA, il faisait entre 320 et 560 kg. Le Targum de Monata Menouzi, il rajoute sur ce bâton, dit qu'il était fait en saphir, qui était pris à partir du Kissa Kavod. Donc, mon cher Louis, il avait un bâton dans sa main de 560 kg, selon Razonich, comme ça. Il est fait de saphir du Kissa Kavod. Et c'était marqué dessus le nom de 70 lettres. Le Yalkut Shimoni, il écrit que c'est avec ce bâton-là que Yaakov il a traversé le Yarden, et c'est ce bâton-là que Yehuda il a donné à Tamar, et David à Meler, ainsi que tous les rois d'Israël, ils avaient ce bâton-là, et Mashiach, il le tiendra, et il frappera les goïms avec ce bâton-là. Le Yalkut Shimoni dit que ce bâton, il parlait devant le clan d'Israël, et il disait, j'étais avec Moshe à Midian, j'ai été changé en Nachash, et je suis redevenu bâton. Donc, il avait une force, de quoi, à Hadimur. Rabbi Nachman Breslev dit que le maté, c'est les mêmes lettres que Métatron. Et il dit que ce maté-là, en fait, c'était l'ange le plus puissant qu'il y a dans le ciel. Moshe, il se baladait avec un bâton. C'était pas un bâton qu'il avait. C'était le malach. Il dit que le maître de Rabbi Meir, quand il est monté dans le ciel, il a confondu, tellement il était grand, Métatron, avec cet ange-là, avec Hachem. Donc, c'était un ange avec lequel Moshe Rabbeinu se baladait. Le Garet Shmuel, il ramène au nom du Ramak, là-bas, que la femme, elle a l'habitude de porter les charges sur la tête, mais pas sur le dos. Pourquoi ? Parce que l'ensemencement de la femme, pour donner des enfants, ça dépend de ses hanches, qui sont reliées à son dos. C'est pour ça qu'elle porte les charges sur la tête. Donc elle ne peut pas supporter une charge trop lourde sur son dos. Alors que l'homme, lui, son ensemencement, il commence à partir de son cerveau. C'est pour ça que lui, il porte les charges sur son dos. Et étant donné que toutes les intentions des Égyptiens, c'était de déraciner le peuple d'Israël à la racine, qu'il n'y ait plus de procréation, les Égyptiens, ils ont dit, vous les femmes, vous porterez les charges sur votre dos pour que vous deveniez stérile, et vous les hommes, vous porterez les charges sur votre tête pour briser votre ensemencement. C'est pour ça qu'ils ont changé comme ça les manières de porter entre les hommes et les femmes. Ils ont fait aussi donc les travaux inverses, quoi. Très bien, Achir. Pourquoi est-ce qu'on dit que c'est à cause de la vanne qu'on est descendu en Égypte? On dit la vanne, il a engendré notre descente en Égypte, on dit dans la Haggadah. Alors, le Halchir HaKadosh, il dit, pourquoi c'est à cause de la vanne, cette descente en Égypte? Il dit comme ça. Il dit que, pourquoi ça? Parce que si la vanne, il n'avait pas mis Léa à la place de Rachel, quel enfant serait né en premier? C'est Yosef. Yosef Hatzadik. Et donc, si la vanne n'avait pas changé, Yosef, il serait né en premier. Et si Yosef, il était né en premier, alors, les frères, ils auraient peut-être mieux compris cette préférence-là que Yaakov, il avait pour lui. Parce que ça aurait été l'aîné. Mais étant donné que Laban il a inversé, Yosef il est né en dernier. Mais cette préférence elle était métaphysique puisque c'est Rachel qui devait être en premier. Donc Yaakov il l'aimait parce qu'il l'aimait. Et ça ils l'ont pas compris parce que c'est pas l'aîné, on comprend pas. Donc à cause de Laban qui a changé, Yaakov il est né en dernier quoi, en avant dernier. Donc c'est à cause de ça, à cause de Laban qui a changé qu'on est descendu en Égypte parce qu'ils ont eu cette kina là, ils l'ont vendu, ça a engendré notre descente dans l'enfer égyptien. C'est marqué dans la Gada, on a crié vers Hachem, et on dit quoi après? Et Hachem il a su. Normalement il dit le Hachir, le Shla. Le Shla il dit, si la Gada, quand on dit on a crié vers Hachem, on doit lui dire quoi après? Hachem il a entendu. Et là on dit on a crié vers Hachem, et Hachem il a su. Il dit le Shla, il dit que, pourquoi on dit on a crié, et Hachem il a su, au lieu de Hachem il a entendu? Parce qu'en réalité, les Bnei Israël, ils avaient une interdiction de pleurer en Égypte. Ils n'avaient pas le droit de pleurer. Ils connaissaient la force de la tfilote, des tfilotes de Bnei Israël. On voit comme ça aussi dans Midrash, Nebuzaradan. Nabuchadnetzar, il a dit à son chef d'armée, il lui a dit, quand tu vas amener les Bnei Israël à Babel, ne les laisse pas s'arrêter une seconde. Surtout qu'ils ne prient pas. Parce que Hachem entend leur tfila. Nebuzaradan, dès qu'un juif s'arrêtait, il le prenait et le coupait en morceaux directement. Pour montrer aux juifs, il ne faut pas s'arrêter. Il savait que c'était puissant la tfila des juifs. Donc Paro, il savait aussi. Alors Paro, il a dit interdiction de pleurer ou de prier. Donc les Israélites ne pouvaient pas prier ou pleurer. Alors on dit, ils ont crié vers Hachem et Hachem il a su. C'est quand ils ont crié vers Hachem? dit la Haggadah, c'est quand Paro il est niftar, quand Paro il est mort, pardon. Quand Paro il est mort, bien enterré, quand Paro il est mort, ils ont crié vers Hachem. Ouais. Pourquoi? Parce que là, ils se sont associés aux pleurs des Égyptiens. Ils ont fait semblant avec les Égyptiens qu'ils étaient tristes pour la mort de Paro. Mais en réalité, ces pleurs-là, ce n'étaient pas des pleurs pour la mort de Paro. C'était des pleurs pour Hachem, je t'en supplie, délivre-nous. C'est ça qu'on dit. Ils ont crié vers Hachem, et Hachem, il a su quoi? Il a su que ces pleurs, c'était des pleurs pas pour la mort de Paro, mais c'était des pleurs pour une demande de délivrance. Comme ça dit le Shla à Kadosh. C'est marqué, le Harizal ici, que la Gadal nous dit comme ça, Hachem l'a fait sortir, que Israël, Hachem, Ani velo malach, Ani velo saraf, moi et pas un ange, ni moi et pas un séraphin, qui est dans la Gada. Pourquoi Hachem, on voit qu'il envoie souvent des malachim, pourquoi c'est lui d'Afka qui est venu, dit le Harizal? Parce que l'impureté égyptienne, elle était tellement forte, tellement puissante et épaisse, que même un malach, s'il était descendu en Égypte, alors l'immondicité de l'Égypte, elle l'aurait englouti, il n'aurait pas pu en sortir. Il n'y a que Hachem, dans sa doucha, qui pouvait entrer et ressortir d'Égypte tranquillement. Si vous avez chaud, vous ouvrez les portes, hein, c'est un courant d'air. Je pense pas que ça dérange. Mais moi, ça me dérange pas en tout cas. La fenêtre aussi, moi aussi. Le Rina, il dit, c'est marqué. Hachem, il dit, je parcourrai l'Égypte et je frapperai. Il dit, le Rina, pourquoi c'est pas marqué? Je vais parcourir l'Égypte et je vais tuer. Je vais tuer, pourquoi je vais frapper? Il dit que Hachem, c'est comme un Kohen Gadol. Il ne peut pas se rendre impur au contact d'un mort. C'est pour ça qu'Hachem, il a juste frappé et après, chaque Bechor, il est mort petit à petit. Ils ont agonisé, ils sont pas morts directement. Alors le Beir Binyamin explique que les Mitzrim, ils ont fait faire des travaux d'hommes aux femmes et des travaux de femmes aux hommes. Pourquoi ils ont fait ça? Pas seulement pour les embêter, mais pour faire trébucher les Bnei Israël sur le Znout. Pourquoi? Parce que les Mitzrim, c'était comme les nazis. Ils exigeaient un travail très 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 soigneux. Donc quand les hommes ont demandé aux hommes de broder, il fallait qu'ils se brodent très bien. Donc pour apprendre comment broder, il fallait qu'ils apprennent avec les femmes. Et ce n'est pas forcément leurs femmes qui leur apprenaient le métier. Donc il y avait un contact entre les hommes et les femmes pour apprendre le métier. Les femmes devaient porter certaines charges. Les hommes leur disaient, voilà, pour que tu t'équilibres bien, il faut porter comme ça, comme si. Donc chacun, il apprenait à l'autre. Il y avait un contact, une promiscuité, ce qui se crée entre les hommes et les femmes. Et ça faisait que des fois, ils pouvaient tomber. Ils voulaient qu'ils tombent dans le znout. Mais ils ne sont pas tombés, mais c'était la volonté des Égyptiens. Donc on attaque les Asara Makot. C'est marqué dans la Gada de Mamoès, là-bas, il dit que chaque plaie, après la Maka, elle était tatouée sur le corps des Égyptiens. Il y avait gravé comme ça, à la fin des 10 plaies, chaque Égyptien, il avait sur lui, ici, Dame, ici, Tsfardéa. C'était jusqu'à sa mort, il avait ça sur lui. Dame, Tsfardéa, Shrin, Barad, toutes les plaies étaient gravées dans leur corps, comme ça. Comme ça, ils se souviennent toute leur vie. Rien comme ça aussi dans la Gada, là-bas, que les Juifs, qui ressentent un petit peu quelque chose d'horreur, il allait faire aux Égyptiens, ils ont ressenti l'espace d'une seconde la souffrance de ce que c'était chaque Maka. Puis voyez un petit peu qu'est-ce que les Égyptiens ils allaient ressentir. Une seconde, c'est regardez qu'est-ce que c'est d'âme, mais qu'est-ce que c'est de ne pas avoir d'eau, de voir que chaque eau c'est du sang, regardez qu'est-ce que c'est les grenouilles. Chaque seconde, une seconde, ils ont ressenti ça. Et donc, première plaie, c'est la plaie du dame. Pourquoi la plaie du dame? Hachem l'a envoyé cette plaie-là parce que les hommes égyptiens, ils empêchaient les femmes du clan Israël de se tremper au mikvé pour se purifier de leur sang de Nida. Hachem a dit, je vais vous envoyer le sang en Égypte. C'est marqué que, pourquoi aussi, il y a chez Kartov, que Paro il est atteint de lèpre, donc pour se soigner de la lèpre, il se trempait chaque matin dans le sang, 150 bébés le matin, 50 bébés le soir. Midrash Hagadol dit que toutes les eaux d'Égypte, elles avaient l'aspect, le goût et l'odeur du sang. Tous les poissons du fleuve, ils sont morts, tous absolument. Le Zohar, il pose une belle chaleur. Il dit, dans le Maboul, les poissons, ils sont restés en vie. Mais dans Makadam, les poissons, ils sont morts. Pourquoi dans Makadam, les poissons sont morts, que dans le Maboul, ils sont restés en vie? Il dit le Zohar, dans le Maboul, les poissons, c'est les seuls animaux à pas avoir corrompu leur voix. Les zèbres, ils ont été avec les renards, les chiens avec les chats, mais les poissons, ils sont restés purs et taor. Ils sont pas morts, les poissons. Mais dans Makadam, ils sont morts, les poissons. Pourquoi? Parce qu'ils ont fauté. Pourquoi? Parce que Paro, il a jeté 1 million de bébés dans le Nil. Ces bébés, quand ils sont arrivés au fond du Nil, les poissons, ils les ont mangés. Pour le fait d'avoir mangé les poissons, c'est pour ça que les poissons, ils sont morts dans le Makat du Dan. Alors, il faut se rendre compte, c'est le Zohar. Il faut se rendre compte un petit peu d'un Égyptien. Il prenait un bain, tout d'un coup, il se voit, il se baigne dans du sang. Une femme, elle prépare un bouillon, le bouillon, c'est du sang. Ouais. sur le feu, il y a du bouillon de sang. Du sang a coulé de leurs murs, et du sang partout. Comme pour leur dire que regardez les bébés qui ont été enfoncés dans les murs, ils crient aujourd'hui comme ça, vengeance. Une maman a voulu allaiter son fils, elle veut donner le sein, elle veut donner du lait. Qu'est-ce qui sort de sa poitrine? Du sang. Il y avait du sang partout. Un égyptien est pressé du fruit, un fruit, du sang qui sortait. Leur salive, c'est du sang aussi. Le juif, il avait de l'eau. Le seul moyen, c'était quoi? C'était d'acheter l'eau aux juifs pour pouvoir boire. Ensuite, dans le Makat, Tsfardé à la grenouille. Alors Aaron à Cohen, il a étendu sa main. Et à la seconde même, il y a une énorme grenouille qui a emprunté la route principale en direction du palais de Paro, comme ça. Les Égyptiens, ils ont apporté des armes pour la tuer. Au lieu de tomber, elle a ouvert sa bouche, elle a craché comme ça des légions de millions de grenouilles. La grenouille, elle a fait un petit sifflement, comme ça, et c'est marqué que toutes les grenouilles, Rachid dit dans sa rime, Kol Haolam, du monde entier, les grenouilles, elles sont arrivées comme ça, elles ont envahi l'Égypte. Dès que tu frappais une grenouille, il y en a 6 qui apparaissaient. Sur la même route, les grenouilles, elles fuyaient les Juifs, et elles allaient attaquer les Égyptiens. Dans la Torah, c'est marqué 10 fois le mot grenouille. Ça vient nous apprendre que la plaie des grenouilles, elle a été 10 fois ouais, aussi pénible que les 10 plaies réunies. Tellement que c'était une plaie très difficile. Le sol, il dit le Midrash, ouais, il était totalement vert. Les grenouilles, elles hurlaient. Pourquoi elles hurlaient comme ça dans les oreilles des Égyptiens? C'est en punition que les femmes juives, elles étaient obligées de mettre leurs mains comme ça sur leur bouche au moment de l'accouchement. Mida keneged mida, vous n'avez pas laissé mes notes Israël pleurer ou crier au moment de l'accouchement. Vous allez voir c'est quoi des cris. Il leur envoyait des grenouilles comme ça. Les grenouilles, ils ont castré les Égyptiens pour les punir d'avoir tué les nouveau-nés garçons. Et les Israélites étaient tellement chargés de travail qu'ils ne pouvaient pas prendre leur repas comme ça au milieu. Ils ne pouvaient prendre leur repas qu'au milieu de la boue. Et donc, c'est pour ça que la nourriture des Égyptiens, elles ont été comme ça aussi infestées de grenouilles qui étaient aussi dégoûtantes que la boue dans laquelle les Israélites étaient. Ensuite, on a les... Il y avait les grenouilles, encore une fois, terminées. Elles rentraient même jusqu'aux toilettes. Elles mordaient et elles châtraient comme ça tous les Égyptiens pour pas qu'ils se reproduisent. C'était aussi Mida Kenegan Mida pour avoir empêché les Israël de procréer. On leur avait qu'ils avaient été castrés. Rabbi Hananel, il dit que les grenouilles c'était des crocodiles. C'est pas Stam, c'était pas des grenouilles. Pour lui c'était des crocodiles. Imaginez des crocodiles partout. Quoi. On arrive à Makat Kinim, l'époux. Alors, les Égyptiens ils forçaient les Juifs à balayer la poussière des rues, la place des marchés, et donc ils pouvaient pas se laver le corps. Donc ils étaient infestés de poux, les Bnei Israël. Mida Kenegan Mida, Hachem a envoyé des poux comme ça en Égypte. Le sol, il était infesté de poux, dit Midrash, jusqu'à 25 cm de profondeur et 50 cm au-dessus de la surface de la terre. Les poux, elles ont piqué, sont pénétrées comme ça dans le corps des Égyptiens, comme des aiguilles. Dit Midrash, qu'il y avait 14 sortes de poux. Il y a certains poux qui mesuraient la taille d'œuf d'oie. Des poux comme ça, quoi. Voir un petit peu. Nous, quand on a des poux, je sais, on n'a pas de poux, mais bon. Imaginez-vous des poux comme ça, quoi. Des poux comme ça, c'est une folie, quoi. La chaîne, ce qu'il y avait, c'est une flamme, dommage. Et les Égyptiens, tellement ils souffraient de démangeaisons, ils se sont arrachés la peau, quoi, en se grattant. Après la plaie des poux, l'esclavage, il s'est arrêté, dit Midrash. Pourquoi? Parce qu'on ne pouvait plus construire. Le sol, il était infesté, c'était impossible de construire. On arrive après à la plaie des bêtes sauvages, à Rov. Alors, les Juifs, puisqu'ils étaient plus soumis à l'esclavage, alors les Égyptiens ils ont dit, on ne va pas vous laisser comme ça au chômage. Il faut bosser, les gars. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Vous allez capturer des animaux sauvages. Et comme ça, on va remplir nos salles de cirque, nos salles de Égyptiens, pain d'air, tout ça. Ouais, c'est vous qui allez tout remplir. Alors, et en fait, qu'est-ce qu'ils voulaient, les Égyptiens? Ils voulaient que les Juifs ils se fassent dévorer. Donc, Moshe Rabbeinu, il a crié vers Hachem, il dit Midrash. Il a dit, comment est-ce qu'ils peuvent attaquer des lions sans se faire dévorer, tes enfants? Hachem, il a rassuré, il lui a dit, ne crains rien. Va dans les champs, parle aux animaux et dis-leur, ainsi a dit Hachem, Kohamach HaKadosh Baruch Hu, demain vous rassemblerez, vous envahirez l'Égypte et vous la détruirez. Et cette tâche, elle vous était destinée depuis la création du monde. Hachem lui a envoyé des lions, des léopards, des singes, des scorpions, des serpents, des ours, des insectes, des vautours, des loups. Et ce mélange en soi, dit Rabbi de Breslev, c'était déjà un miracle en soi, ce mélange-là, parce que les animaux, ils ne se mélangent pas entre eux. Le fait qu'ils sont tous venus comme ça ensemble, c'était ça en fait le miracle, c'était Arov. C'était le mélange en soi. Pourquoi on n'appelle pas ça les bêtes sauvages, ouais. On appelle ça Arov, le mélange. Pourquoi? C'était ça le miracle. C'était le fait que tous ils étaient comme ça l'un avec l'autre. Il y a le scorpion, il vient avec son ennemi juré. Tac. Le lion, il vient avec le tigre. Ils ne supportent pas, ils viennent tous les deux ensemble comme ça. Il dit que même les animaux domestiques, il dit le Midrash, les vaches, les ânes, ils sont devenus sauvages aussi. Ils ont attaqué leur maître. Et c'est marqué dans le Midrash que quand Akadosh Baruch Hu a envoyé les animaux sauvages, il les a envoyés avec leur environnement naturel sous les pieds. Pourquoi ? Pour que les animaux ils se sentent plus en sécurité. Par exemple, il a envoyé l'ours polaire avec un morceau de pôle nord sous les pieds. Le lion avec un morceau de Kenya sous les pieds. Le serpent d'Amazonie avec un morceau d'Amazonie sous les pieds. Pourquoi ? Pour qu'ils se sentent « Ah, je suis chez moi là. Je vais les dévorer les Égyptiens. » Ils se sentaient bien comme ça. Comme ça, il les a envoyés. C'est marqué que les Égyptiens ils s'enfermaient comme ça dans leur maison, ils verrouillaient les portes. Alors Hachem, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a ordonné à une grande pieuvre qui s'appelle Sidonite. Une grande pieuvre, elle est sortie comme ça, elle a tendu sa main, elle a ôté les toits comme ça des Égyptiens, elle a ouvert les verrous comme ça, elle a dit « Chavo le lion, chavo le tigre, allez-y, bon appétit. » Ils sont rentrés comme ça grâce à la pieuvre et ils ont fait une belle seouda, ils ont bien mangé. Et donc, c'est marqué Mishnah dans Kilaïm là-bas aussi, que Hachem lui a envoyé un animal géant à forme humaine. C'est un animal immense, il avait une forme humaine. Il était attaché à la terre par un cordon ombilical. Ils étaient plusieurs comme ça, dit la Mishnah là-bas. Et Hachem leur montrait en fait aux Égyptiens là que les Égyptiens en fait ils vivaient que pour ce monde là. Ils étaient attachés à la terre par un cordon ombilical ces animaux pour montrer un petit peu aux Égyptiens comment est-ce qu'ils étaient attachés à ce monde matériel là et qu'ils n'auraient pas de place dans le Olam Haba. Ensuite il appelait le Dever, la peste. Alors la peste, dit Sefer Yashar, il y a 90% des bêtes des Égyptiens qui sont morts à cause du Makat Dever. 90%. Pourquoi maintenant ? Lama. C'est quoi le Mida Keneged Mida dans Makat Dever, dans la peste ? Alors le Haggadah de Zevar Pessah, à la page 112, il dit que les Égyptiens, pour ménager leurs bêtes, ils attelaient les Bnei Israël à leur charrue. Imaginez-vous, il y avait le papa, ouais, avec sa petite fille comme ça, il devait tirer comme ça la charrue des Égyptiens, ils étaient comme ça, ils devaient labourer comme ça, c'était terrible quoi. Hachem dit, t'as mis mes enfants sur les charrues, t'auras plus d'animaux. Il a tout détruit. On arrive à Shrin, traduit un bouton, je crois, une serre, c'est ça, Shrin. Alors, marqué que les Égyptiens... Pourquoi il y a eu ça, dit le Rida ? Parce que les Égyptiens, ils séparaient les femmes de leurs maris. Et quand je me trouve avec la makat des Shrin, il a fait que la douleur, elle était tellement forte que les Égyptiens, les hommes et les femmes, ils ne pouvaient plus rester ensemble. Donc ils étaient obligés de se séparer. C'est marqué dans là-bas, Yahouaba, que les Égyptiens, ils ont ordonné aux Hébreux de chauffer et de refroidir l'eau. Fais-moi chauffer de l'eau, fais-moi refroidir, fais-moi chauffer de l'eau, fais-moi refroidir, fais-moi chauffer de l'eau, fais-moi refroidir. Mida keneged mida. Ce qu'il a fait avec Jouhou, il a fait que vous, maintenant, Égyptiens, vous ne pourrez plus vous baigner, ni dans l'eau chaude, ni dans l'eau froide. Et tellement la douleur, elle était forte. Savoir qu'il y avait 24 sortes de shrim, il dit le Midrash. Et donc, les Bnei Israël, ils n'avaient pas le droit de se gratter, quoi. Et même s'ils se ressentaient le côté, dès qu'ils voulaient se gratter, on leur remettait un coup. Ah, vous n'avez pas laissé les Bnei Israël se gratter, vous allez vous gratter maintenant pendant un bon moment. Et avec shrim, ils étaient obligés de se gratter tout le temps, quoi. Et après, Makat Barad. Barad Hachem lui a envoyé la grêle. La grêle qui a détruit tous les jardins et les potagers des Égyptiens. Pourquoi ? Parce que tous ces jardins-là, ils ont été plantés par les Juifs. Donc Hachem, il les a détruits. Ensuite, la grêle, elle était composée de boules, ça, de glace transparente, du Midrash Rabbah, à l'intérieur laquelle il y avait du feu. Et la grêle, elle décimait les arbres avec la même facilité qu'un bout de papier. C'était très, très fort, hein. C'était très facile, quoi. Elle était vraiment très tranchante. Les boules de grêle, il dit Midrash à Gadol là-bas dans Rachat Vaïra, elles avaient la taille de 6 poignées d'hommes. C'était des grosses boules, c'était énorme quoi. Alors il y a des Égyptiens qui se sont rendus à Goshen là-bas, mais les grelons ils les ont attaqués aussi là-bas. Ils ont fait la distinction, la grêle, entre les Égyptiens et les Juifs. Il dit Ramachan de Breslev, amène un Yerushalmi dans Sanhedrin, un Chouma aussi dans Réé, un Zohar aussi, qu'il existe dans le ciel deux Geinam, un Geinam de feu et un Geinam de glace. Et Hachem, dans Makat Barad, il a fait descendre les deux Geinam sur terre. Le feu et la glace ensemble. Ils ont ressenti c'est quoi les deux Geinam. Il explique à Gav, c'est quoi ce Geinam de feu, Geinam de glace. Geinam de feu, c'est pour celui qui a eu le feu de la Tahava. Celui qui a fauté avec envie. Cet entrain-là, cet éclavou qui doit mettre dans votre Hachem, il l'a mis dans l'Yetzerara. Il l'a mis dans toutes les choses ouais, qui sont contre Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est le Geinam de feu. Pas un Geinam de glace. C'est un Geinam de glace, c'est quoi celui qui est froid. T'aimes bien Shabbat ? Ouais, Shabbat, on connaît Shabbat. Et t'aimes bien la Gemara ? Ouais, Gemara, ça va, on dirait qu'il y a. Ça va, normal. Guinam de glace. Celui qui est glacé, il est au Bad Hashem. Il est glacé. Ouais. Là, c'est Guinam de glace. À la venue de Mashiach, certains grelons ouais, qui sont restés dans le ciel, ils descendront à la venue de Mashiach. Ensuite, il y a la plaie des sauterelles. Arbé. Pourquoi ? Les Égyptiens, ils ont forcé les Bnei Israël à planter du blé, des fèves, toutes sortes de graines là-bas. Les sauterelles, ils sont venus, ils ont tout dévoré, tout ce qui a été planté par les Bnei Israël. Et il faut dire que ces sauterelles-là, ce n'étaient pas des sauterelles comme nous on connaît, ouais, petites sauterelles. Ces sauterelles, elles avaient des griffes de lion, dit le Midrash Gadol, des dents d'acier, des ailes d'aigle. Leur dos, il frémissait comme des serpents. et sauter le visage des Égyptiens comme ça, elle leur arrachait les yeux avec leurs griffes, c'était une midrash, et leur salive c'était un poison qui faisait mourir les Égyptiens. Donc c'est tout sauf des sauterelles. Mais on appelle ça un akat sauterelle, un akat arabe. Donc elles avalaient tout, elles avalaient les arbres, les herbes, les habits, les bijoux, les objets, elles avalaient absolument tout. On a makat, après makat barad. Donc Hachem il barach, ouais, il sait que les Égyptiens ils adoraient le soleil, c'était un de leurs dieux. Hachem leur a montré le pouvoir illimité du soleil, il a envoyé 6 jours de ténèbres en Égypte. Ils ont été frappés de cette plaie là, pourquoi? Parce qu'ils ont fait travailler les Hébreux depuis le petit jour jusqu'à très tard dans la nuit. Les Égyptiens aussi, pourquoi ils ont été frappés? Pourquoi? Parce que lors de leur repas, ils prenaient un juif, ils disaient: regarde, tu restes ici, tu vas m'éclairer pendant tout le repas. Tu prends la bougie, tu la mets sur ta tête, et si tu bouges, je te tranche la tête. Donc le juif était obligé de bouger, il avait peur comme ça. Et Hachem dit: tu t'es éclairé avec mes enfants, tu vas voir c'est quoi la lumière. On leur a mis l'obscurité comme ça. À l'époque, il n'y avait pas de lampadaire dans la rue. Ouais, il faisait noir total. Qui étaient les lampadaires dans la rue à l'époque? C'était les juifs. Ils devaient rester toute la nuit comme ça, dans la ville, avec des torches. Comme ça, quand les Égyptiens ils marchaient, comme ça, ils se baladaient avec leurs femmes le soir, ils se baladaient. Donc ils se baladaient comme ça, et les juifs ils étaient comme ça en tant que torche. Ils ne pouvaient pas dormir toute la nuit, ils étaient comme ça avec la torche. Pour eux, c'était les lampadaires de l'époque. Donc, Neged Kenegedze, Hachem il a envoyé ma carte. Proche, Razak, vous suivez. Très bien. Donc, chaque juif, il dit Midrash, Shemot, il est accompagné d'un lot de lumière partout où il allait. Il pouvait rentrer chez les Égyptiens pour voir où est-ce qu'ils cachaient leur trésor, pour leur demander la sortie d'Égypte. C'est marqué que le jour de la venue de Mashiach, aussi, dit Rav Nachman de Breslev, qu'il y aura aussi ce phénomène-là, comme en Égypte, on aura de la lumière et nos ennemis seront plongés totalement dans le noir. Donc il y a eu Makat Bechorot, ensuite on termine avec Makat Bechorot. Les Égyptiens, ils ont voulu exterminer le premier-né d'Hachem. Hachem a exterminé les premiers-nés des Égyptiens. Pourquoi ils sont morts? Parce qu'ils avaient jeté les premiers-nés des Juifs dans le feu. Donc, Minag et Tegna, ils sont morts.
Et pourquoi on n'a pas dit Aminu Bachem à
chaque fois? On va voir après. Donc, à minuit exactement, les paroles d'Hachem ils sont réalisées. Kadosh Baruch Hu est descendu sur l'Égypte, accompagné de Malachim. Il a frappé les premiers-nés et les Malachim Chabala, eux, ils sont descendus, ils ont tué les premiers-nés qui étaient dans le ventre de leur mère. Et le Midrash Agadol, il dit que les premiers-nés qui étaient déjà morts avant la plaie, ils ont été sortis de leur tombeau par les chiens, ils ont mâché et dévoré leur corps comme ça. Les chiens, ils démolissaient aussi les statues qui avaient été érigées en l'honneur des premiers-nés. Les Égyptiens, ils avaient une coutume, c'est de dessiner des photos, ouais, c'est pas des rabbanim, c'était leurs premiers-nés sur les murs. Donc même ça s'effaçait, quoi. Ça s'était effacé. Et donc les premiers-nés c'était, qui sont morts, c'était de la mère ou du père? Ça pouvait être les deux. C'était, Hachem il a dit premier-né de la mère et du père. Donc, il s'avère des fois qu'il y avait beaucoup de problèmes de Shalom Bayit, des Égyptiens, après la plaie premier-né. Pourquoi? Parce que le père il était chez lui comme ça, et il savait qu'il était premier-né, il devait mourir. Il y a sa femme, il y a ses 5 enfants, et il voit, ah ouais, il y a un enfant qui doit mourir. Il voit 5 enfants qui meurent, et je comprends pas. Moi j'ai un premier-né, moi. On a un seul premier-né tous les deux. En fait, c'était des premiers de la mère, ouais, comme du père, quoi. Donc il y avait, en fait, il y a deux qui mouraient, deux qui mouraient. Et je comprends pas. En fait, elle a compris quoi, qu'il a compris que sa femme le trompait, quoi, et qu'elle avait eu un premier né d'un autre homme. Donc, vous pouvez aussi voir combien ils étaient dans le zmout.
Ah oui, peut-être, oui, il a raison. Peut-être que c'était la femme qui trouvait avec d'autres.
Oui, mais là, c'est ça. Il vient me faire rappeler. Bravo, c'est ça. Donc, elle a eu 5 hommes différents. Donc, c'était un premier né de chaque homme à chaque fois. Bravo. Exact.
Un point de plus pour.
Donc on arrive à le Yam Souf. Ouais, Hachem a ouvert la mer, l'ouverture de la mer Rouge. C'était un des plus grands miracles qu'Akash Borou il a fait. Il faut savoir que les Égyptiens, ils étaient 300 fois plus que les Juifs. 3 millions et demi de Juifs fois 300 Égyptiens. Ouais, ça fait qu'il y avait 900 millions d'Égyptiens à la sortie de la mer Rouge. Hachem il a fendu la mer en 12 couloirs, un pour chaque tribu. Et puis ils pouvaient se voir un côté de l'eau parce que les murailles elles étaient transparentes. Et le Midrash il dit que l'eau elle formait une tente au-dessus de leur tête. Il y avait des arbres fruitiers comme ça qui poussaient au milieu de la traversée. Le Midrash il dit aussi qu'il y avait des fontaines d'eau potable qui étaient collées aux murailles de la mer. Juste tu tendais la main et l'eau potable elle sortait. C'était extraordinaire. Il y avait l'odeur du Gan Eden qui accompagnait pendant toute la traversée. Les Juifs ils marchaient sur le sol, les Égyptiens marchaient dans la boue pour leur rappeler qu'ils ont fait travailler les Israël dans la boue comme ça. Et donc ça c'est sûr le Yam Souf. Et même le bébé dans le ventre de sa mère, dit Midrash, il a fait la Shira, il a pointé du doigt comme ça, et ça marque que le ventre des mamans qui étaient enceintes, il est devenu transparent. Le bébé il était comme ça, il avait 6 mois, 4 mois, il disait ah Zekeli va aller où, tout petit bébé comme ça, transparent, mignon comme ça, il est mignon, il est beau, il te ressemble, comme ça. C'était comme ça dans le ventre de leur mère. Donc il y avait la manne, Ouais, on a eu la manne aussi. Manou, qu'est-ce que c'est qu'ont dit les bébés Israël ? La manne. Donc, manne extraordinaire, elle était ronde et blanche, dit le Rokéar. Elle avait un goût sucré, délicieux. Et elle était complètement assimilée par le corps, a dit la Mechilta. Elle ne laissait pas de déchets. Pour les bébés, ça avait le goût du lait maternel, de la chala pour les jeunes enfants et du miel pour les personnes âgées. Ça, c'est le goût de base. Et après, tu prenais le goût que tu voulais. Couscous, boulettes, dafina, viande, coca, tout, il y avait tout ce que vous voulez, ça prenait le goût. Le puits de Myriam, c'était un puits qui prenait toutes les boissons, dit le Arizal aussi. Et la manne, elle prenait la saveur qu'on voulait. Et c'est marrant, le Midrash dit qu'elle pouvait être chaude ou froide. Ouais, tu voulais que ce soit chaud, c'était chaud. Tu voulais que ce soit froid, il n'y a pas besoin de micro-ondes. Chaud, tu veux que chaud, chaud, froid, froid. Donc, quel bracha on faisait sur la manne ? Alors, il y a Marc Loguet. Le Sefer Birkat à Aaron, il dit, en fait, c'était la question des Béisraël, ça. Manou, c'est quoi ? Man, c'est quoi man ? C'est même noun. Man et varer. Quel bracha on fait ? Ça, man. Manou, man et varer. Quel bracha on fait ? Et Moshe leur a répondu, pas de bracha. Pourquoi ? Parce que Moshe leur a dit, ou alechem ashanatan lachem, Hashem leorla. C'est le pain qu'Hashem vous a donné à manger. Donc c'est quoi la preuve qu'on fait pas le bracha ? Parce que la Gemara dit dans brachot, asur le adam le anot miolamazé velo bracha. C'est dafka miolamazé. De ce monde-là, n'a pas le droit de profiter sans bracha. Mais quelque chose qui vient du olam haba, tu peux profiter sans bracha, dit le Birkat Aaron. D'autres, ils disent que quand ils ont demandé man ou, en fait, man nevarer, ils ont dit man nevarer, qu'est-ce qu'on fait comme bracha ? Et c'est marqué kilo yadou mahou. C'est quoi qu'ils ne savaient pas mahou ? Qu'est-ce que c'était ? C'est quoi mahou ? C'est mezonot ou hamotzi ? On fait mezonot ou hamotzi ? Alors, dans le Bnei Sahar, c'est marqué au nom du Mekoubal Rav Israël Dov, qui ne faisait pas de bracha, parce que c'était un pain qui était entièrement absorbé par le corps, il n'y avait pas de déchets. Et on sait qu'une bracha, elle fait un tri entre les trucs de Gdoucha, les trucs. Il y a un truc à Pikabala, je ne suis pas trop dedans. Donc, mais il y a un tri qui est fait par la bracha, il y a un tri qui est fait, quoi. Et il n'y a pas besoin de faire de tri par la bracha. Et donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas besoin de faire de bracha, parce que la manne était totalement assimilée par le corps. Le Rav Ipano, il dit que la tigre lavo, à la soldat du Léviathan, on va sortir la fiole de manne, qu'on a gardée en souvenir. On va faire Amosi Lechem Minashamayim. On fera cette brachala, Léa Tiglavo, sur la manne. Amosi Lechem Minashamayim, que c'est marqué Ou Alechem Hashematan Hashem. Le Zohar lui-même, par Hashem Béchalach, il dit qu'il faisait une bracha sur la manne, mais il ne dit pas quelle bracha. On arrive au Korban Pessah. Korban Pessah. Donc, ce soir-là, on a grillé au feu le Korban Pessah. Pourquoi on l'a grillé ? Pourquoi on ne l'a pas cuit ? Parce que l'odeur, elle se répand beaucoup plus quand tu grilles. Tu grilles de la viande, ça c'est totalement répandu. Les Égyptiens, ils ont pris conscience que leur Dieu, il est mort, c'est terminé, c'est fini. On l'a grillé totalement. On devait mettre son sang comme ça sur le linteau des portes de nos maisons. Cette lettre-là, ce linteau, c'est la lettre Hé, Hachem, on avait une émouna totale en Kadosh Baruch Hu. Il faut bien comprendre un petit peu ce qui s'est passé. Ça veut dire, il fallait vraiment beaucoup de courage pour les Bnei Israël. Parce que c'était quoi en fait le Korban Pessah ? C'était l'agneau. C'est quoi l'agneau ? C'était le Coran en fait. C'était le Dieu. C'est comme si on est dans le pays de Daesh, ouais, et Hachem vient, il dit, vous prenez le Coran en détail, vous faites un feu, ouais, devant la maison, vous brûlez le Coran comme ça, vous prenez les pages comme ça, et vous les mettez comme ça, brûlées comme ça sur la porte, comme ça ils voient, n'ayez pas peur, je suis avec vous. Les Israël, ils l'ont fait, ils l'ont tous fait. Ils n'ont pas eu peur, ils ont eu des moulats, souma. Ils ont brûlé le Coran dans le pays de Daesh. C'est ça qu'ils ont fait. Brûler le Coran de Bassar, c'était ça en réalité. C'est Nora ce qu'ils ont fait. C'est une vraie moula, on dit. C'est Bistrout, cette mitzvah-là, la mitzvah de Mila, quoi, qu'ils ont dû faire pour manger le Korban Pessah, qui sont sortis. Ça va, t'as fait un Korban, on dirait qu'est-ce qu'il y a ? Non, c'est pas Stam. Ils ne devaient pas sortir normalement. Grâce à cette mitzvah-là de Mitzirut Nefeshat Souma, d'une émouna totale en Hashem Barah, ils ont pu sortir. Brûler le Coran dans le pays de Daesh. Voilà, c'est quoi le Korban Pessah ? C'est une Nora. On devait le griller en entier, et pas le cuire ou le bouillir. Pourquoi ? Alors il dit le Maharal, parce que pourquoi tu dois le griller ? Parce qu'il dit quand tu fais bouillir une viande, elle va se dilater. Elle va s'élargir. Elle va perdre de son unité première. En revanche, si tu grilles une viande, elle va perdre son eau, elle va se contracter et elle va s'unifier. Et c'était ça. À ce moment-là que l'Israël, il représentait le Korban Pessah. En fait. On avait une ardoute totale entre nous. On était Pehrad, Levehrad, Imakadosh Baruch. On était totalement unis. Il dit pourquoi l'animal, dit le Maharal, du Korban Pessah, c'était un agneau. Il dit parce que l'agneau, c'est le seul animal dont tout le corps réagit à la suite d'un coup. N'importe quelle partie de son corps, tu mets un coup, l'agneau il tremble, tout son corps il tremble. C'est ça que l'Israël. Un juif fait une mitzvah, tout le monde le ressent. Toute l'Israël profite. Un juif fait une avera, Khalila, toute l'Israël il ressent aussi. Ça c'est vraiment le clan d'Israël. Pessah. Ouais, Pessah, donc c'est la bouche qui parle. Korban Pessah, ouais, la bouche qui parle et ils disent, c'est pareil à Doshim, qu'on peut réparer le Lashon Hara de toute l'année à travers le Sipour Yetziat Mitzrayim. Il faut bien y aller, les gars, il faut pas hésiter, c'est une mitzvah de la Torah. De parler des sorties d'Égypte. On répare le Lashon Hara de l'année. Quand on fait une tchouva avant, c'est, ça, ça aide énormément. Et vraiment purifier notre bouche. Le rabbi de Kitchov, il disait, souvent les gens viennent me demander des questions. Il me dit, ouais, comment est-ce qu'on cachérise les marmites? Comment on fait, ouais? On fait quoi? Gala, liboune, qu'est-ce qu'on fait? Les fourchettes, comment on fait? Ouais. Les ouvre-bouteilles, on cachérise? On cachérise pas? Qu'est-ce qu'on fait? Comment on cachérise? Il vient me poser toutes les questions. Ouais. Comment on fait pour cachériser les ustensiles, pour pouvoir mettre de la nourriture, cachère les pessards dans ces ustensiles? Mais une question, il ne me demande pas. Comment est-ce qu'on va purifier et cachériser cette bouche-là qui toute l'année a dit du Lashon Hara, toute l'année s'est moquée, toute l'année a menti? Cette bouche-là, comment elle peut recevoir une matzah de chat comme ça dans sa bouche? Ça, personne ne me demande comment cachériser une bouche pareille. Stam, ça voit. C'est un grand dansoir, on peut réparer beaucoup, beaucoup de choses. On arrive à la matzah, on va tout terminer à Botaï, on arrive à la matzah. Donc la matzah, il dit le Mara, le Ramban aussi, il dit c'est Ziva Shrina Shenit Gashem. C'est les rayons de la Shrina matérialisés dans la nourriture. C'est-à-dire, si on pouvait, Khalila, matérialiser la Shrina dans quelque chose, c'est dans la matzah qu'on la matérialiserait. Il dit, en fin de Breslev, quand tenir la matzah dans sa main, ça équivaut à saisir, en quelque sorte, la shrina dans sa main. D'abord, on aura. La matzah, c'est besoin d'aucune association. C'est de l'eau et de la farine. L'eau, ça y est, shum d'abar. Ça shum barar. L'eau, ça y est, ok. Le chametz, il sert à rien. Le chametz, c'est pour de l'eau, pour du sel, pour du sucre, pour des œufs, pour du temps. C'est tout. Il faut ça, il faut ci, il faut ça, il faut ci. Matzah, shum d'abar. Doucha tsuma. Dilzohar, c'est le pain de l'aïmouna. C'est un pain qui guérit toutes les souffrances. Et l'aïmouna de toute l'année d'Ilzohar, elle est puisée dans cette achilat matzah qu'on va manger là. C'est la pureté absolue. Et Tzadikim, le Shla, il embrassait la matzah et le maror. C'est marqué que la Gemara en Souka, elle dit que tout enfant, tant qu'un enfant, il n'a pas ingéré du blé, il n'a pas mangé du blé, il ne sait pas dire papa. C'est-à-dire, si tu donnes à un enfant à manger ce que tu veux, mais tu ne donnes pas de blé, jamais il saura dire papa. Dès le moment où tu lui donnes du blé à manger, il commence et il pourra dire papa. Il dit le Rabbi Lubavitch, il dit c'est quoi ce blé-là? C'est le blé de la matzah. Tant qu'un juif il n'a pas intégré au début de l'année la matzah, il n'a pas mangé la matzah, il ne sait pas dire papa. Il ne sait pas prier à Kadosh Baruch Hu. Mais une fois qu'il a intégré la matzah en lui, une fois qu'il a intégré ce message-là de Emouna, alors là il sait dire Hachem, il sait dire papa, il sait prier à Kadosh Baruch Hu. Donc comme on a dit, c'est ça le que la matzah, elle peut arriver à réparer le dîme de Rosh Hashanah, elle peut arriver à faire sauter le dîme de Rosh Hashanah. C'est-à-dire que vivre Be'emouna, savoir que tout ce qui nous arrive, c'est Kadosh Baruch Hu, d'être tout le temps Be'simcha, vivre avec Hachem, de faire tout ce qu'il nous demande, ça fait que quand on arrive à Rosh Hashanah, en réalité, on voit qu'on n'a pas de faute. Pourquoi? Parce qu'on vit avec Hachem. Si on vit avec Hachem, on ne peut pas fauter. On intègre ce message-là que à Kol, on vit des Shamaï, mais on vit avec Hachem Mamash, Be'emouna Shema. On voit sur la matzah des traces noires, des petites traces noires comme ça. Vous voyez, c'est la cuisson. Au Moyen-Âge, il y a certains chrétiens qui ont levé une accusation contre nous. Ils ont dit qu'on avait fait quoi? On prenait le sang des bébés chrétiens et qu'on pétrissait les matzot avec. Rabban Masserman, il écrit dans l'introduction de son Sefer, je crois, il écrit là-bas que c'est étrange quand même qu'on ait une accusation pareille qui nous tombe sur notre tête. Il y a des milliers de juifs qui sont morts, des massacres, de tout ça, à cause de quoi? De cette accusation-là. Parce qu'on a pris du sang des bébés chrétiens, soi-disant, on a pétri les matzot avec. Vous avez une accusation pareille. S'il n'y a pas une seule goutte de Emet, l'accusation ne peut pas tenir. C'est forcément qu'il y a du Emet là-dedans. Il dit que Dieu me pardonne si je me trompe, dit Rabban Masserman. Mais je pense, dit Rabban Masserman, que cette accusation elle est venue sur nous à cause des frères de Yosef qui ont trempé la tunique de leurs frères dans le sang. Alors nous aussi, on nous a accusé toutes les générations de tremper les matzot et de les pétrir avec du dame. On arrive à Maror. Maror, donc en souvenir bien sûr des travaux amers qu'ils nous ont imposés, les travaux de femmes aux hommes, les travaux d'hommes aux femmes, comme ça dit Midrash. Maror, c'est aussi appelé Chassa. Chassa en araméen, ça signifie Rachamim, miséricorde. Donc même dans les problèmes, on peut sentir la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu. Même dans l'amertume, on peut voir la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, dit Rav Nachman. Le Maror, il dit le Chida, c'est Gematria 446. Maror, Gematria Mavet. Mavet, c'est aussi 446. La Maran d'Azara, elle dit que lorsque le Malach Mavet y vient, c'est un Malach qui est très très grand, il a des yeux partout. Quand il s'approche du futur mort, il s'approche de lui, quand le bonhomme y voit le Malach Mavet, il a très peur. Il a tellement peur qu'il ouvre la bouche. Il fait ah. En ouvrant la bouche, le Malach, il a une épée. Sur cette épée-là, il y a un petit liquide verdâtre là-bas que le Malach Mavet va poser sur la langue du futur mort. Et celui qui verdâtre là, il va faire verdir son visage et il va mourir de cette manière-là. Ce verdâtre-là, disent les Sfarim, c'est du maror. C'est un maror très très amer qui fait mourir. Il fait mourir l'homme. Et c'est ça que les Bnei Israël ont senti en Égypte. Ce maror-là, cette mavette-là, cette mort-là, ça ils ont senti en Égypte, les Bnei Israël. On finit avec l'Afikoman, on est pile, poil, 10h30, parfait. Afikoman, donc en souvenir du corban Pessah, nos ancêtres ils ont mangé, qu'on mangera à la prochaine station avec Rosh Elaïm. Alors, le maror, il est marqué dans le Sefer Ereshai, écrit au nom du Zohar, dans Parchat Pinchas, que la Matzah, elle a une force, comme la Mezouza. Et ça fait fuir les Shedim et les Mazikim, et c'est pour ça que c'est bien, c'est une habitude de garder comme ça sur soi un morceau de cette Matzah-là tout au long de l'année. Et le petit-fils du rabbi de Tzanz, j'ai entendu ça de Rav Frankfurter dans une dracha qu'il a fait il y a peut-être une dizaine d'années, il a entendu du petit-fils du rabbi de Tzanz, il a dit que le petit-fils du rabbi de Tzanz, il raconte que son grand-père, vous vous souvenez, on l'a dit au début de du shiur, qui se faisait taper là par les Goïm, vous pouvez me détruire à moi, et que l'Israël ne vous détruirait jamais. Il a dit que son grand-père, lorsqu'il mangeait la fikoman qui est en souvenir du korban pessah, un morceau de viande, on mangeait une matzah en souvenir d'un morceau de viande, quoi. Souvenir de... Il dit que son grand-père, lorsqu'il mangeait la matzah de la fikoman, il s'imaginait être à Yerushalayim. Et il croyait vraiment qu'il consommait par un pessah. Il s'y croyait vraiment. Il dit à tel point que de sa matzah, la fikoman qu'il mangeait, tu pouvais voir de la fumée qui sortait de la matzah et de la graisse de viande qui coulait sur sa barbe. Il mangeait de la matzah maintenant. Tellement il y croyait que maman, c'est de la graisse de viande qui coulait sur sa barbe et de la fumée comme ça qui sortait. On termine avec Raphaël Sonnenfeld. Il dévoile que lorsque Esav il est rentré chez Yitzhak pour lui emmener à manger, alors Yitzhak, il a dit à Yaakov, il a dit à Esav, je peux pas manger. Ton frère, il est venu déjà, il m'a nourri, et je peux plus manger, c'est tout, terminé, je peux plus manger. Nigmar. Yitzhak, il dit à Esav, ton frère, il est venu benirma, il est venu avec une ruse, je peux plus manger. Il demande à son frère, pourquoi il a pas goûté? Goûte au moins, fais plaisir à ton fils, goûte un petit peu. Alors il dit que Rashi dit que sur les deux agneaux que Rivka elle a dit d'amener à Yaakov, il y avait un qui était corban Pessah, parce que c'était Pessah, et un autre c'était un corban pour manger quoi. Et il dit, Yaakov il a donné à son père en réalité du corban Pessah. Et donc, corban Pessah, tu peux plus manger après corban Pessah. Et c'est ça, dit Ramzanefel, que Yitzhak, il dit à Yaakov, ton frère il est venu Bemirma, Bemirma avec ruse, Mirma Gematria 287, Gematria Afikoman. Finis qu'il y avait
on a dit plus tard on va faire la voie de trace pas mal de positif parce que ça va être Vina Chamaï. Pourquoi on va faire maintenant parce qu'on